Bonjour et bienvenue pour le 296e épisode de Comic Stories. Un épisode qui sort la troisième partie de notre bilan 2019 avec la fin du palmarès des Comic Stories Awards et le début de la dépression pour Clément puisque l'époque du règne de Jeff Lemire, elle est terminée. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 296e épisode de Comic Stories. Cette partie VO, je suis toujours comme dans les deux premières parties avec Anthony. Et bah, il est parti Anthony, avec Erwan.
Bon. Salut.
Ah c'est bon, il est revenu. Bon. Et avec Clément.
Salut.
On va prendre des nouvelles de toi régulièrement dans l'émission Clément. On sait que ça peut être un moment facile à vivre donc... voilà, on va y aller, on va te ménager, promis. La VO, je disais, première petite mention particulière, enfin voilà, une précision qu'on doit faire, on va dire VO pour raccourcir et pour aller plus vite, voilà, c'est un mot qu'on a plus l'habitude d'utiliser à l'oral, mais on parlera plutôt, nous en tout cas, ce qu'on a choisi de faire sur les catégories pour les votes des Comic Stories Awards, de création originale, puisque cette année on a quelques titres qui étaient écrits et pensés en français, ça aurait pu être d'autres langues, mais sauf que c'était en français, et le français était la langue originale de ce projet-là, donc ça avait aucun sens de les mettre dans les sélections pour la VF, donc du coup vous entendrez parler de titres dont la langue originale est le français dans cette émission VO, et c'est normal, c'est un choix de notre part, et je trouve que c'est tout à fait légitime de le faire, en tout cas c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on fait ce genre de bilan sur Comic Stories, donc ça méritait quand même petite précision et explication de pourquoi vous avez retrouvé par exemple le PTSD de Guillaume Saint-Gelin au milieu de graphic novel et one-shot américain, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais avant d'arriver là, et avant que Clément ne sombre dans une dépression, on va commencer par parler de notre bilan à nous, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule sur la VO. On a des choses à dire, je pense. Hein, et Clément, puisque c'est ton émission, puisque c'est ton moment, je te propose de commencer. Ça te mettra un petit peu de baume au cœur.
C'est tellement...
Alors, ça ne fera pas gagner Jeff Lemire, hein, mais...
mais ta voilà. Gueule. C'est tellement généreux de ta part. Ouais, c'était surtout un coup de gueule parce que c'est vrai qu'on a, ça nous a, enfin ça a pollué les lecteurs VO, je pense, durant cette année, même au-delà, hein, même en 2018. C'est DC Comics et son retard éditorial.
Ouais.
Ça vraiment, mais c'est une plaie. On a eu le retard sur Doomsday Clock.
Doomsday Clock, ça fait 3 ans que c'est en retard, donc au pire.
Ça fait 3 ans que c'est en retard. On a aussi le cas pour Shazam.
Ouais.
Il y a sans doute, c'est sans doute le cas pour d'autres.
Le Black Label, hein.
Oui, le Black Label, c'est vrai. On attend toujours un fin mot. Donc voilà, c'est un coup de gueule parce que vraiment, ça a beau être des titres de qualité, et ben ça fait perdre toute expérience. On a des comics. Je crois le Shazam, il y avait au moins là 3-4-5 mois de retard.
Ouais.
Le double des blocs, n'en parlons pas. C'est juste chiant quoi pour les lecteurs. C'est preuve que DC ne maîtrise pas quoi. Ça veut dire qu'ils annoncent beaucoup trop tôt leurs titres et que les titres sont pas prêts et qu'ils veulent imposer des dates de sortie aux auteurs, aux scénaristes, aux dessinateurs surtout. Et c'est que c'est pas viable, c'est pas prêt quoi. Au bout d'un moment, il faudrait plus qu'ils prennent leur temps plutôt que balancer des trucs à tort et à travers et faire qu'il y a énormément de retard. Et c'est pas les paroles de Dan qui vont nous rassurer à cet égard.
Ouais. Puis il y a quelques annonces aussi qui avaient été faites. Hein. Il me semble hein, qu'on attendait Three Jokers pour 2019.
Oui. Non, c'était 2020.
C'était 2020 dès le départ l'annonce.
Il me semble.
Ok, enfin, très bien. Dans ce cas très bien. Mais moi il me semblait que c'était plutôt pour 2019. Mais ok, tant mieux à la rigueur si c'est. Mais oui, effectivement c'est retard. Et Marvel aussi hein, sur la fin d'année. Hein. Il y a eu quelques petits trucs là du côté de chez les titres mutants, notamment avec la nouvelle gamme Dawn of X. Il y a eu voilà, la série principale X-Men notamment qui a été retardée. Enfin voilà, on sent qu'on n'est pas très loin d'arriver sur des décalages du même ordre et ça a déjà commencé de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est jamais sympa, quoi. C'est jamais agréable. Et on finit par lâcher l'affaire. Enfin moi Shazam, du coup je l'ai lâché. Hein.
Bah ouais.
Anthony, Erwan, un petit premier élément à apporter pour cette année VO?
Moi, pour ma part, j'en lis pas suffisamment
Ouais.
pour me prononcer là-dessus, donc je vais laisser, je passe mon tour.
Alors, Erwan.
Qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Si, il y a eu l'arrivée de la collection humanoïde, donc H1 Ignition, qui est
Ouais.
arrivée à la fois en France et en même temps aux États-Unis, donc en parallèle, c'était assez intéressant. Et en plus, avec des titres qui sont plutôt de bonne qualité. Donc, ça, c'était un truc cool. Moi, ce que j'ai regretté cette année, c'est j'ai trouvé hein, personnellement l'essoufflement des séries chez DC et un petit peu chez Marvel. Plus chez DC en tout cas, parce que habituellement j'en suis pas mal et là cette année c'est vrai que c'était un peu mort, j'ai pas suivi grand-chose. Même si les séries un peu secondaires, tout ce qui va être à peu près Aquaman et Red Hood et Teen Titans, ça ressort un peu du lot avec ce qui s'est passé entre-temps. J'ai plus le nom de l'événement, c'est No Justice. Donc là, il y a eu un bon renouveau qui s'est fait avec ces séries-là, mais globalement, tout ce qui est les séries régulières, Justice League, Batman. Moi, perso, j'ai un peu décroché. Hein. Pourtant, j'aimais bien ces séries en New 52, mais fou,
Bah, tu
j'ai un peu de
prends
mal avec ça.
Superman,
Bah, Superman, on
énorme
n'en parlera
déception,
pas, oui,
quoi.
effectivement.
Énorme
C'est
déception.
assez dur à vivre quand on sait comment il a commencé dans le Rebirth et qu'on voit dans quel état il est maintenant.
Et pourtant, Bendis, ça fait du bon travail hein, sur le reste de ce qu'il a fait avec toutes ces séries avec les jeunes, là,
La Young Justice, par exemple.
le Young Justice, même Naomi qui va arriver chez nous là bientôt. Tout ça, c'est du bon, qu'est-ce qu'il a fait.
Bah, Naomi,
Mais c'est vrai
j'ai
que
pas commencé encore.
Superman, ouais, ça m'a un peu déçu ce qu'il a fait. Mais voilà, sinon, globalement, pour moi, ça, c'est du bon. Tu vois, Bendis, on a un peu parlé, on a un peu critiqué son arrivée. Finalement, il a quand même fait pas mal de bonnes choses. Et l'autre truc, bah, c'est encore une arrivée. C'est TKO qui a commencé cette année, hein, du coup,
Tout début
en
d'année,
début
ouais.
d'année. Donc, ouais, pour moi, en fait, c'est que des nouveaux trucs qui sont arrivés, qui sont bien. Dans la continuité, bah, c'est un peu mou, quoi.
Bah
Voilà.
ouais, tu parlais de DC qui s'essouffle un peu. Effectivement, je trouve que DC s'est un peu perdu, moi, cette année, entre les retards, entre les couacs de communication par rapport au Black Label et à Batman Damned en particulier. Voilà, et finalement, c'est vrai que quand on regarde ma pull list de début 2019 et qu'on regarde ma pull list de début 2020, bah, elles sont quand même bien différentes, quoi. DC, il y en a de moins en moins. Y a Red Hood, y a The Flash, parce que The Flash, on arrive bientôt à 90 numéros, enfin 750, pardon. Et du coup, c'est toujours bon. Enfin, voilà, Williamson, de bout en bout, il maîtrise son truc. Et voilà, ça, c'est une série que je continue. Pour le reste, qu'est-ce que je lis encore? Les Teen Titans. Et puis pas grand-chose d'autre chez DC, au final. Donc effectivement, cet essoufflement et cette perte de vitesse de DC au côté éditorial, ouais, je l'ai bien bien senti aussi. Et à contrario, bah, j'ai rajouté de plus en plus de Marvel plus l'année passait.
Bah exactement pareil. Mais après, perte de vitesse, tu vois, je sais pas si ça va être ce terme-là, parce qu'au final, ils ont énormément misé sur leur Black Label, en fait. Si tu regardes la plupart des titres cette année qui fonctionnent, ou c'est ça, en fait, c'est Black Label.
Ah bah oui, parce
Et
que c'est des
pourtant, c'est
petits
pas
événements,
fou.
c'est des équipes créatives All-Star, on leur laisse a priori, en tout cas dans les intentions, un peu carte blanche, et on leur laisse un peu prendre un ton différent et peut-être plus adapté au public qu'on est. Mais oui, c'est tout quoi. C'est le label de Joe Hill qui se porte, semble-t-il, plutôt bien. En tout cas, j'ai lu les débuts de série et moi, ça me plaît plutôt. Mais ouais, dans l'univers proper, c'est un peu plus compliqué.
C'est inquiétant pour Urban derrière qui récupère ce qui se passe.
Ouais, après Urban a la chance d'avoir les titres Image, même si on en parlait dans l'émission VF, on a pas mal qui arrivent en bout de course et qui se sont terminés en 2019, donc il va falloir renouveler le catalogue. Mais ouais, c'est vrai que, bah, à la rigueur, tant mieux, ça nous permettra peut-être d'avoir des vieilles pépites de manière plus fréquente.
Ou d'avoir les suites qui nous manquent, qu'ils n'ont pas publiées encore.
Oui, voilà, pourquoi pas, coucou Urban. Et puis ouais, Marvel, je disais, j'en ai rajouté de plus en plus. Bah, j'ai le Daredevil évidemment, les séries de Monsieur Donny Cates aussi. Moi maintenant, il a suffisamment de crédit à mes yeux pour que son nom suffise à me faire acheter un projet. Tout comme Chibzarsky qui a fait 2-3 trucs hyper sympas. La gamme mutante qui m'a bien occupé aussi cette année. Enfin voilà, ouais, du côté de chez Marvel, moi je trouve ça c'est. Ils ont plutôt repris un petit coup de fraîcheur avec l'arrivée de nouveaux noms ou le retour de grands noms chez eux. Et ils ont fait une plutôt de belle année, je trouve. Et puis l'indé, quoi, toujours, encore. Oula, vraiment, Boom Studio, bonne année, Boom Studio. Je crois que j'ai rarement lu autant de titres de chez Boom que cette année. Vraiment, un beau, beau, beau programme. T'avais d'autres choses, Clément, toi?
Là, comme
Est-ce que tu
ça,
nous as fait ton petit coup de gueule, mais est-ce que t'as un petit coup de cœur?
non,
C'est le moment de dire du
non,
bien de Jeff Lemire dans
non.
l'émission.
Non, bah, après, c'était tiens, qui tient, enfin. S'il y a un titre, bah allez, puisqu'on parle de Jeff Lemire, je pense qu'il y a un titre que je retiens de Jeff Lemire cette année, c'est Guidance Falls.
Ah, pas
Non,
Ascender.
non, bah pour le coup, Guidance Falls, parce que je
D'accord.
pense que c'est la série qui m'a le plus bluffé de sa part. Hein. Je te parle pas de tout auteur confondu, mais de sa part, ça m'a vraiment bluffé. Enfin, ça doit beaucoup au travail de Sorrentino, parce que le mec fait une composition à chacune de ses pages, c'est. je crois, limite chacune de ces pages, c'est une œuvre d'art. Et puis, et je sais pas du tout si on approche ou pas la fin du pop. Je pense quand même que oui, mais ça va sur des terrains où, franchement, auxquels je n'aurais jamais pensé. Et je trouve que 2019 a été particulièrement bon pour ce titre.
Ok, bah moi pour le coup, Gaiden Falls, bah j'ai arrêté. J'ai arrêté en single et je vais le continuer en TP parce que je me suis rendu compte que tous les mois je le prenais plus pour les dessins de Sorrentino que pour l'histoire qu'on nous racontait. Donc je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, ça allait peut-être pas le coup de continuer en single et de passer au TP. J'ai l'impression que c'est vraiment une écriture un peu décompressée et que on me rajoute des questions sans me donner de réponse pour autant et ça commençait un peu à me lasser. Donc je me dis,
Ouais, je
je vais lire
comprends.
ça en TP par arc, que peut-être j'aurai l'impression d'avoir plus de réponses et de voir les choses plus avancées qu'au rythme mensuel comme c'était le cas avant. Donc je verrai. J'apprécie toujours la série, mais j'avais peur de m'en lasser et de l'arrêter complètement. Donc je me suis dit peut-être que je passe au TP pour celle-là.
Après, selon ta farm hand,
Ah,
ouais,
la
c'est
petite
sûr.
pépite Farmhand, évidemment. Voilà, ça c'est effectivement un de mes coups de cœur. Ma découverte de fin d'année pour Ice Cream Man aussi. Je suis le seul à la lire ou
Je
pas?
connaissais pas,
Enfin,
alors.
ouais.
Oui.
Bah voilà, du coup, vous en entendrez parler dans la partie du bilan de Boris qui vous en parlera et j'en dirai deux mots aussi. Donc voilà, ça fait partie de mes petites découvertes là. Ice Cream Man aussi, toutes les séries Boom, je le disais. Et puis bah enfin la fin de Doomsday Clock évidemment. Enfin.
Oui, évidemment.
Une fin qui du coup, ouais,
Pétard mouillé.
pas pétard mouillé, mais je me suis dit j'ai attendu 2 ans et demi et en fait.
Oui, c'est
Et
ça.
là, je pose une question, hein, j'ai pas du tout la réponse, parce qu'encore une fois, je ne lis pas en VO, mais vous pensez quoi de la fameuse cinquième génération de DC, là?
Bah, elle va arriver là, début 2020, elle a commencé officiellement en janvier là, avec le Wonder Woman 750, donc je suis pas encore tombé dedans. Après, je sais pas, je sais pas quoi en penser de cette annonce-là. À la fois, je sais pas, et quand j'ai lu le truc, je me suis dit oui, pourquoi pas, et est-ce que je m'en fous pas un peu? Enfin, je suis un peu dans cet état
C'est
d'esprit-là
quoi?
avec DC en ce moment.
C'est le remplacement des héros, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça, c'est la nouvelle génération, cinquième période de leur grande chronologie. Remettre un peu la chronologie à plat de chez DC, en parlant de génération, qui correspondrait un peu au
D'accord.
Golden Age, Silver Age et compagnie. Et du coup, attaquer une 5G avec bah, quelqu'un qui prendrait la place des grands héros. Peut-être un Jonathan qui prendrait la place de son père. Enfin, voilà, des choses comme ça. Du coup, c'est super.
Okay.
Je sais pas quoi en penser, je sais pas si je m'en fous, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de m'y intéresser parce que ça durera peut-être pas si ça marche pas, donc je sais pas. Je suis un peu dans le doute avec ce truc-là. On verra.
D'accord.
On verra, mais ouais, je sais pas. Là, d'ici vraiment, ouais, je suis un peu sur ma faim. Et puis, Jeff Lemire aussi, hein, qui m'a un peu déçu moi cette année. Son Family Tree que j'ai pas aimé, son Inferior 5, on n'en parle pas, c'est une purge. Enfin, voilà, il a. L'année du trop, peut-être pour lui. À force de faire trop de choses, on se perd et
C'est vrai.
on les fait moins bien. Donc bon. On va passer au premier prix, au premier award. La meilleure série régulière en création originale. Est-ce que quelqu'un a la liste sous les yeux? Car je ne l'ai
Oui.
pas. Ah bah alors, vas-y.
Alors, pas mal de nommés. Il y a au moins nommés, je crois, 8-9 nommés. On a le Daredevil de Chip Zdarsky de Marvel. On a le Thor de chez Marvel. On a bien sûr le Farmhand de Rob Guillory de Image Comics. On a le Venom de Donny Cates de Marvel. On a le Ice Cream Man d'Image Comics. On a Gaiden Falls de Jeff Lemire et Andrea Sartio, toujours chez Image. On a le fameux, et ça va plaire à Mathieu, Giant Days.
Ça plaît pas qu'à Mathieu.
C'est
Oui.
vrai,
Hein?
c'est
Grand
vrai.
Léo.
Donc de Giant Days de John Allison et de Boom Studio et enfin Murder Falcon de Daniel Warren Johnson.
Le fameux Daniel Warren Johnson dont on a parlé dans la première partie de ce bilan. Marvel, Image, des indés, DC et où?
Dans ton cul, pardon.
Oh pardon, dis donc. Tu ne sais pas ce qui se trouve actuellement dans mon cul, non, tu ne peux pas le dire. Ouais, pas d'ici, hein. C'est peut-être la première fois, hein. Depuis qu'on met des awards au vote sur le site, c'est la première fois qu'on n'a pas de DC dans la catégorie meilleure série régulière et je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Mais bon, le gagnant, est-ce que c'est surprenant si je vous dis que c'est un titre Marvel?
Non.
Thor.
Eh ben non, c'est l'autre, c'est Venom.
C'est Venom.
Venom. Ah oui, c'est Venom. Évidemment que c'est Venom.
Ouais.
Ah, Anthony. Bon, je suis plutôt d'accord, hein, évidemment. Enfin voilà, Donny Cates, Ryan Stegman. Très très belle année, la peau.
Très très belle année, ouais. Bah, pour le coup, moi je le lis au rythme VF, mais bon, c'est la même qualité d'épisode.
Oui.
C'est juste, c'est excellent, quoi. Le mec fait de la continuité, change le personnage, artistiquement c'est la branlée à chaque épisode, même quand c'est pas Ryan Stegman et que c'en est d'autres, ça défonce. Le mec se paye un event, Venom, Carnage,
ouais.
En plein dans les années 90, ça défonce.
Non, Absolute Carnage, c'était.
Qu'est-ce que tu veux faire?
C'était énorme. Non, c'était vraiment, voilà, c'était une très grande année du côté de Venom. Enfin, si moi on m'avait dit, il y a encore un ou deux ans de ça, que Venom serait dans les premières lectures que je fais quand je reçois mes singles, je vous aurais rigolé au nez, quoi.
Attention, parce que le Venom de Rick Remender, c'était du bon.
Ouais, mais moi c'est vraiment un personnage qui ne m'intéressait pas. Enfin, qui. Et je sais pas pourquoi, le nom de Donny Cage, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait avant, son Thanos, son Cosmic Ghost Rider, je suis allé voir, et bah ouais, j'ai adhéré immédiatement, quoi. Donc peut-être que du coup, maintenant, grâce à ça, je vais être prêt à aller lire ce dont tu parlais, Anthony, mais... Ouais, enfin, voilà. En deuxième, on a Farm End.
Ah.
Ouais, bah ouais, toujours pas Jeff Lemire, Clément. Il est troisième avec Gaiden Falls.
Ah, ça va, il s'en sort avec les honneurs.
Tout de même. Et puis, juste derrière, on a Giant Days. Comme quoi. Comme quoi aussi, on a aussi les auditeurs qu'on mérite, entre guillemets. Hein. C'est des séries qu'on met aussi, nous, en avant, Farmhand et Giant Days. Donc, c'est assez logique que, du coup, les gens qui aiment nous écouter ou nous lire suivent aussi ce type de séries et les mettent en avant dans leur vote. Ça me surprend pas. Ça ne me surprend pas du tout. Et du coup, bah ouais, Venom, bien joué. On va se faire peut-être la meilleure série limitée en même temps. Est-ce que toujours pas, j'ai toujours pas la liste sous les yeux. C'est
quelqu'un. Moi je
l'ai aussi.
Et bah alors vas-y Erwan, ça fera changement.
Du coup on a du Doomsday Clock par Geoff Jones et Gary Frank. Il y a du Spider-Man Life Story par Zdarsky et Mark Bagley. Deceased par Tom Taylor et Trevor Ersine. Le House of X, Power of X, ça en fait comme deux titres là. Par Hickman et Pepe Larraz et Herb Silva. Absolute Carnage par Donny Cates et Stegman, et Skywards par Joe Anderson et Dee Garbett.
Effectivement, House of X Power of Ten, ça fait deux titres, mais du coup, comme chaque personne qui les a proposés pour cette liste les a mis ensemble, je me suis dit, bon, on va les laisser ensemble, et puis après tout, elles étaient tellement imbriquées que bon.
Oui, c'est une œuvre. Oui.
Voilà. Tu mets ta pièce sur qui, toi?
Du coup, moi, c'est. Bah, je sais pas, j'hésite entre Life Story et House of X.
C'est chaud, hein. Moi aussi, pareil, au moment de choisir.
C'est vraiment chaud parce que là, j'ai bientôt fini de lire Spider-Man Life Story et effectivement, je comprends pourquoi le machin se retrouve nommé. C'est une pépite. C'est très relevé, hein, cette catégorie. Hein.
Anthony va le découvrir prochainement, le Life Story.
Vu que ça arrive, mais je suis beaucoup plus intrigué par Hickman sur
oui pareil je vais lire aussi
et ben les gens aussi sur Hickman parce que les gens ont aussi hésité entre les deux et finalement ils ont penché du côté de Jonathan Hickman.
Bah, c'est pas étonnant.
House of X Power of Ten, Powers of Ten avec 32% des voix quand même. Qui est la meilleure série limitée du coup dans les votes. C'est amplement mérité. Enfin, pareil hein, on m'avait dit que je suivrais du X-Men toutes les semaines il y a encore un an. Bah pareil, j'aurais bien rigolé quoi.
Tu suis Jonathan Hickman sur les X-Men.
Ouais, c'est peut-être ça en fait. Et Spider-Man Love Story du coup deuxième. Et puis Deceased pas très loin, donc c'est un beau podium.
Parce que Deceased. Doomsday Clock, il est situé où ?
Doomsday Clock, Doomsday Clock, il se fait un petit 10%, tu vois.
Ah oui.
Mais bon, je comprends, hein. Beaucoup l'ont lâché. Hein.
Ouais, c'est arrêté.
Et ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve plutôt l'année prochaine du côté de la VF. Peut-être qu'il sera plus soutenu parce que ça sera sorti en une version, un bel album chez Urban et que du coup, ça sera peut-être plus mis en avant dans le bilan 2020. Mais bilan 2019, oui, c'est complètement passé sous le radar. Ça me surprend pas. Mais Deceased, mention spéciale aussi. Hein.
Oui.
Une jolie petite surprise, hein. Je l'ai lu une fois terminé en hardcover et ouais, c'est super cool. Du coup, j'attendrai le format hardcover pour la deuxième mini qui va bientôt commencer, mais oui, je serai là. Je serai là.
Pareil.
Allez, Clément, tu es prêt? On va parler du meilleur scénariste. On va se faire la liste quand même. Il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait une liste, je crois qu'il y avait au moins 10 ou 12 noms dans la liste. Enfin, vraiment, ça a été super dur. Ça a été vraiment super dur de faire un tri et d'en éliminer certains. Clément, vas-y, tu peux nous faire la liste des nommés. Tu as le droit de commencer par ton préféré. Parce que de toute façon, il n'a pas gagné.
Non, je vais faire dans l'ordre de la liste.
Vas-y.
Donc, Donny Cage, pour Venom, Absolute Carnage.
Oh, on te grâce des titres, vas-y.
Ok, Tom Taylor, Chip Zdarsky, Rob Guillory, Jason Aaron, Jonathan Hickman, James Daniel Ford, Jeff Lemire, John Allison et Tom King.
Voilà. Tous ces gens autour d'une table, ça doit être sympa. Hein.
Ah ouais, tous ces gens en Comic-Con.
Ouais, ça va être sympa aussi, ouais, tu m'étonnes.
Pas pour le portefeuille.
Pas Paul Port, non, je suis d'accord avec toi. Donc, pas tous ces gens pour une Comic-Con. Prenez, étalez un peu. Marc, on en a déjà vu, hein. Donny Cates était là cette année, Tom Taylor aussi. Les autres, non, par contre.
Ouais,
J'ai
ils ont
vu
un
Tignos cette
sacré.
année, si, si.
T'as vu Tiny une fois?
Ouais, en Belgique.
Ok. Ouais, cool. Bon, l'émir, je c'est déjà vu pour moi aussi, donc à la rigueur, voilà. Mais c'est un Chips Darsky. Ouais, je serais bien content de croiser ce monsieur. Quand il était venu en France chez Pulp, je l'avais raté, mais je serais bien content de le voir revenir. Donc, bah non, hein, non, non, c'est pas Jeff Lemire et c'est la première fois depuis. Clément, toi qui es là depuis un bon. Depuis le début, c'est pas souvent qu'on annonce pas Jeff Lemire en meilleur scénariste quand même.
Ça faisait 2-3 ans, je crois, qu'il était pas
Au minimum.
qu'il gagnait.
Je sais pas s'il l'avait gagné l'année dernière. Enfin, il a dû avoir un trou, mais dans les
Ouais.
5 ou 6 bilans qu'on a fait, c'était à chaque fois lui qui l'avait. Et ben, pas cette année. Cette année, c'est encore du côté de chez Marvel. C'est le même monsieur que celui de Venom, c'est Donny Cates. Sans surprise, peut-être.
Ouais.
Enfin, tout ce qui touche semble se transformer en or, donc.
C'est-à-dire qu'en gros, le gars fait tout ce qu'on a reproché à Marvel. C'est-à-dire que Jonathan Hickman, c'est un génie, mais c'est brumeux. Donc, c'est assez. Bon, quand tu te lances dans Jonathan Hickman, il faut savoir dans quoi tu te lances. Donny Cates, c'est un auteur qui est accessible, qui fait le lien de la continuité, qui écrit bien, qui sait faire des cliffhangers, qui sait s'entourer d'artistes, qui sait remettre en avant des personnages qui sont appréciés, mais qui n'ont jamais eu l'aura de porter une série. Enfin,
Et qui
très
te dit
honnêtement, le gars.
qui ils sont, pour ceux qui ne les connaissent pas. Enfin,
Est
tu le.
vraiment talentueux, quoi.
Oui. Et qui s'amuse. Enfin, qui nous
Le
amuse du coup aussi.
coup de génie sur la Necrosword au début de Venom et qui te fait le lien avec le God of Thunder 3 ou 4, c'est brillant. Enfin, franchement, c'est brillant.
Donc oui, il a amplement mérité ce voilà, meilleur scénariste de 2019. Et oui. Enfin, là pour le coup.
C'est l'un des rares scénaristes qui est meilleur sur du mainstream que sur de l'indé.
C'est vrai aussi en indé, il a peut-être moins cette espèce de souffle
Ouais.
de folie qui pourtant il pourrait avoir parce que c'est de l'indé et que voilà, mais.
Les gardiens sont pas dans la parenthèse, mais putain, j'ai lu les 6 premiers numéros, ça défonce.
Ouais, non, son début avec après la mort de Thanos et tout et machin. Ouais, non,
Ouais.
c'est intéressant.
Et
C'est
le gars
intéressant.
te fait le lien avec Infinity War, ce que j'ai pas lu, et il m'a donné envie de lire cette daube.
C'est pas mal, c'est une belle prestation, je trouve.
Ouais.
Clément, tu peux sourire un petit peu, Jeff Lemire est deuxième.
Ah, quand même.
Et puis Chips Darsky sur le podium aussi. Chips Darsky, Daredevil et Life Story. Voilà.
Aaron, il y est pas quoi.
Jason Aaron, il y est pas. Non, Jason Aaron, il y est pas. C'est dommage, je suis d'accord avec toi. Tout comme Jonathan Hickman aurait mérité d'y être, Tynion Ford, Guillory, enfin, pour moi tous, même Tom Taylor, enfin, là j'en vois pas un, peut-être Tom King un peu en dessous, par goût personnel, mais pour les autres, je crois que j'ai même pas voté dans cette catégorie parce que j'étais pas capable, quoi. Là pour le coup, il y a tellement de grands noms et tous différents dans leur genre et tous excellents dans leur genre, ouais, c'était vraiment hyper compliqué. Et peut-être qu'au moment de choisir, là pour le coup, la catégorie scénariste, les gens avaient la possibilité de voter pour beaucoup de noms. Enfin, il n'y a pas de limite au nombre de cases qu'on coche dans une catégorie. Et dans cette catégorie, les gens n'en cochaient souvent qu'un ou deux. Donc
Ah ouais.
c'est là que la différence s'est faite. Et au moment d'en choisir un ou deux, bah, c'était souvent Donny Cates était quasiment toujours présent, Jeff Lemire une fois sur deux. Et du coup, bah, forcément, les autres étaient peut-être plus dilués dans le reste. Et c'est ceux qui revenait le plus souvent dans les sélections multiples qui s'en sont tirés quoi. Donc voilà, non, bah un beau podium quand même, et petite mention, ouais, Jason Aaron qui a fini un grand run sur Thor quand même.
Ah
On attend de voir ce qu'il va nous faire maintenant, mais ouais.
Il est sur quel titre?
En mainstream, sur rien du tout, hein, de tête. Enfin, à part Avengers, peut-être qu'il le fait encore?
Avengers, il le fait encore. Hein.
Voilà, bah c'est peut-être tout, hein. Mais je serais pas étonné qu'il prenne un petit peu de recul par rapport à tout ça.
Bah, qu'il fasse une sorte de Jonathan Hickman, finalement.
Ouais, peut-être. On va continuer avec le pire cette fois. On va parler un petit peu de ce qui nous a pas plu. On en a parlé nous dans notre bilan. Il y avait quelques jolis prétendants au No Award du pire comics de l'année. Anthony, t'as la liste ou pas? Sous les yeux.
Ouais, je l'ai. Je l'ai sous
Vas-y,
la liste.
vas-y du coup.
Je l'ai sous les yeux. Donc on avait Heroes in Crisis, Spider-Geddon, Batman Damned, le Cosmic Ghost Rider Destroys Marvel History, Berserker Unbound et Detective Comics numéro 1000.
Une bien belle brochette de bouse, je trouve.
Oh.
Heroes in Crisis, moi j'ai trouvé ça bien.
Ah ouais? Ah oui, c'est
Detective
vrai que t'as trouvé ça
Comics,
bien.
Batman Damned
Detective
aussi.
Comics m'avait pas choqué. Je
Qu'est-ce
l'avais
qui
trouvé
t'a
sympa.
pas choqué, Clément?
Le Detective Comics 1000.
Quand même.
Ah, je l'avais préféré, tu vois, au Action Comics.
Quand même.
Le Arkham Knight, quand même.
Ah
L'Arkham
oui,
Knight, l'Arkham Knight,
tu fais
c'est
allusion à ça, tu le fous pour ça, dans la catégorie rien que pour ça, effectivement, il mérite.
Moi, je suis pas, c'est, moi je l'ai même pas, j'ai même pas pensé à le mettre, hein, c'est les autres personnes du groupe
Non, moi non
voilà, qui
plus,
l'ont
ça
mis
m'a
plus. Enfin, j'ai même pas pensé à ça. Hein. Moi, c'était clairement du Heroes in Crisis, du Berserker Unbound, enfin voilà, des choses comme ça.
Ah.
Berserker Unbound quand même, quoi.
Je le connais pas.
Ah bah, c'est, bah ne connais pas. Hein.
Ah
Bah, pour le coup, c'est
oui.
Jeff Lemire. Hein.
Ah ouais?
Ouais, avec Mike Deodato. Mais alors, du coup, une bien belle purgeasse.
D'accord.
Ouais, bon, c'est, ouais, pour le coup, là, ouais, j'ai pas vu beaucoup d'avis positifs passer là-dessus.
Je connais pas, c'est un. C'est sorti où ça?
C'est sorti chez Dark Horse, de tête, je crois, ouais.
Ouais, Dark Horse, ouais.
Ah, je suis en train de voir des images, ça donne pas tout.
Ouais, je sais pas, ouais. Non, vraiment. Là, c'était vraiment pour le coup un numéro et je suis même pas sûr d'avoir fini le premier numéro. C'est le truc m'est tombé des mains. Bon, ben, désolé, Anthony, hein. Heroes in Crisis.
Oh non, c'est pas vrai.
Ah, si, si, c'est vrai. Et de loin. Et d'assez
Ouais.
loin. Ouais, d'assez loin. Erwan, ça t'étonne, toi?
Bah ouais, parce que finalement, moi j'ai bien aimé aussi, hein. J'ai
Ah
trouvé
ouais?
ça intéressant comme point de vue. De développer cet aspect-là au niveau des héros, j'ai trouvé ça super intéressant.
Ah mais
C'est une musique.
Le départ, je suis d'accord. Hein. Le point de départ du truc, la
La fin.
volonté du concept et tout. Moi, ça m'a. Les premiers numéros, franchement, j'ai accroché, j'ai un avis super positif. Moi, là où vraiment j'ai été plus qu'agacé, c'est la fin.
Et parce que toi, t'aimes le personnage que tu
Oui.
considères trahi.
Non, mais j'aime le personnage, mais ouais, il y a quand même un minimum de caractérisation et jamais un personnage comme ça ne réagirait de la manière dont il a réagi. C'est même pas le fait qu'il ait tué des gens que à la rigueur, qu'il soit le coupable, que ce soit lui qui ait tué, pourquoi pas? Ça peut s'expliquer. Mais
Le coup.
ce qu'il fait après, ah non, c'est pas possible. Enfin,
Bah
je
justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit ils agiraient pas comme ça, mais au final ils sont c'est
J'y
des
quand même
humains
comme
au
ça.
final.
Ouais, je suis d'accord.
Tu vois, il suffit d'une fêlure qui fait qu'on n'agit pas comme on penserait, on aurait agi, tu vois. C'est ça qui est intéressant dedans, justement.
C'est possible, non mais peut-être. Hein, après, je peux comprendre que certains aient accroché vraiment jusqu'au bout et voilà. Après, moi, voilà, c'est vrai qu'effectivement, à titre perso, c'est pas tombé sur le bon personnage. Effectivement, même si j'étais prêt à accepter qu'il puisse être coupable, ce qu'on lui a mis sur le dos derrière en termes de réaction et tout et de comportement, je peux pas, j'y arrive pas. Visiblement, j'ai pas été le seul. 32%.
Attends, il y avait quoi dans cette putain de liste? Il y avait quand même dans Spider-Geddon, on l'a quand même lu sous Dan Slott.
C'est
Bon,
vrai. Mais du
et
coup,
Heroes in Crisis, au moins c'est nouveau et c'était beau.
au moins c'était nouveau, oui. Non mais peut-être. On a Batman Damned et Detective Comics 1000 derrière. Trois titres DC.
Bah, Batman Damned, c'est pareil. Je veux dire, oui,
C'est
le
beau.
scénario, c'est enfin, visuellement, c'est l'un des trucs les plus jolis qui est sorti cette année. Hein.
C'est beau, mais effectivement, en VO, ça a quand même beaucoup souffert du
Et
marasme. Voilà. Et
oui, il y a eu effectivement le marécage.
La
Le
polémique
mar.
existe de Batman.
Ouais, entre, bah,
D'accord,
y a pas que le Bat-Zizi, mais il y a aussi d'autres choses, voilà, autour de ce titre-là, il y a eu vraiment une espèce de cafouillage au niveau de DC qui était assez bizarre. Et puis moi franchement, il m'a fatigué ce titre.
ah ouais, moi j'ai bien aimé. Moi, ça m'a surpris déjà que ce soit la suite de Joker. J'étais pas du tout au courant, donc j'ai plutôt bien aimé ce côté-là. Puis moi, l'idée d'avoir un Batman au purgatoire qui part en couille,
ouais,
oui, ça m'a
là,
pas.
on est.
C'est pas du Dark Knight Returns, on est d'accord, mais
C'est vraiment de la
au moins
propagande
c'est.
intellectuelle, ça parlait pour rien dire.
Je trouvais ça très beau, mais
Ouais.
si je veux un artbook de Liber Mero, bah, j'achète son Inside, enfin voilà, chez Urban et voilà.
Mais attends, par rapport à Spider-Geddon.
Ah bah oui, non mais on n'est pas sur les mêmes gammes, je suis d'accord, mais là on parle peut-être plus que de mauvais titres, on parle peut-être du truc qui a le plus déçu. C'est peut-être comme ça aussi que ça a
Et
été,
oui.
voilà. Par rapport à ce que pas Spider-Geddon qui soit pas gagnant, ça m'étonne pas parce que déjà de base t'en attends rien de ce truc-là.
C'était nul. Moi, j'ai lu le premier mensuel Panini, c'est nul.
Tu te doutes que ça va pas être bon, au final c'est pas bon, tu l'oublies, t'es pas déçu, et au moment de ressortir ce qui t'a vraiment déçu au point de vouloir te faire rembourser comme le veut l'intitulé de la catégorie,
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
bah ouais, Spider-Geddon, pour moi, oui, du coup il ressort pas. Là on est peut-être plus sur le coup du rejet par rapport à ce que t'en attendais, et ces trois titres-là, à mon avis, ils représentent bien ça. Detective Comics 1000, le numéro événement qui se termine avec un Arkham Knight, et voilà. Cosmic Ghost Rider, Destroys, Marvel Universe, Marvel's History,
Moi,
pareil.
je l'ai mis dedans parce que t'as lu le premier numéro, bah t'as compris que c'était Frank Castle, Uncle Fredo, comme on l'appelle dans la mini, bah qui va retourner à des moments clés de l'histoire et qui va faire des choses différentes. Bon bah
Oui,
oui.
non, mais c'est tout, voilà, ça, tu lis le titre, bon, bah voilà, tu sais que,
Bah t'as compris.
voilà, Donc du coup, je suis moins surpris que ça du
Ah,
résultat, parce que peut-être j'interprète pas la catégorie de la même manière, et du coup ça me choque moins. Voilà. Mais effectivement, oui, Berserker Unbound, pour moi, méritait largement d'être le pire comics de l'année. Ou Spider-Geddon, je suis d'accord avec toi. En termes de pire en qualité, ouais. En termes de déception, peut-être pas. Donc peut-être ça a été pris comme ça par les gens qui votaient aussi. En tout cas, c'est comme ça que je me l'explique. Allez, on va parler cover, on va enchaîner, puisque cette année, la nouveauté, c'est qu'on a la catégorie cover artiste, et on s'en est pris quand même plein les yeux. Niveau
oui.
cover, je crois que c'est une des plus belles années. Entre le Matina, le Poutry, enfin voilà, moi, Yasmine Poutry, elle est haute dans mon cœur, cette personne. Erwan, si tu as la liste.
Ouais, bon, oui, il manque quand même Tyler Kirkham dedans, je trouve. Mais
Il en
bon.
manquerait plein, je suis d'accord.
Ouais, il en manque plein, mais oui. Bah, du coup, dedans, on a quoi? On a Matina, on a Yasmine Poutry, Mark Brooks, Alex Ross, Jen Bartel, que je ne connais pas, Julien Totino Tedesco et Olivier Coipel.
Voilà. Quand on met tous ces noms ensemble, il n'y a pas un petit. Enfin, il y a peut-être un biais, quoi. Il y a un nom qui, rien que dans la liste, ressort tout de suite. On se dit. Enfin, c'est tellement un
Ah bah.
artiste
Ross,
historiquement
il y en a deux.
énorme, Alex Ross, que, à mon avis, il ne pouvait pas être autrement que ce soit lui qui gagne. Et c'est ce qui est arrivé. Enfin, voilà. Les autres noms sont peut-être plus confidentiels et ça parle peut-être plus aux amateurs de belles covers et de variantes covers, alors qu'Alex Ross, il parle à tout le monde.
Évidemment.
Et ses couvertures de cette année sont super belles. Hein. Ce qu'il a fait en hommage à Stan Lee, par exemple, moi, voilà, la couverture du Captain America, elle est déchirante. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et c'est Matina qui arrive deuxième.
Oh, c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant. Effectivement, ses covers sur DC's notamment m'ont pas mal marqué cette année. Celle sur Green Lantern aussi. Et puis, bah, Batman par Matina, c'est quand même.
Ouais.
C'est quand
Après,
même.
c'est un style très musclé, très, très réaliste. Donc, pour le coup, ça peut ne pas plaire. Mais si on accroche un peu à l'école, on va dire Jim Lee, Jason Fabok, tous ces artistes-là, David Finch, c'est l'Uber cover, hein.
Oui, c'est magnifique. Et Yasmine Poutry, troisième. Et quand je vois ce qu'elle a fait sur Redwood et sur Nightwing cette année notamment, je suis bien content.
Oui, bah clairement. Le Coipel est un peu décevant cette année. Hein. Moi, je sais pas où il est, mais dans le
Euh, il
classement,
est,
mais je
il
le
est,
trouve.
il est, il est très très en bas du classement. Il s'est moins démarqué. Peut-être qu'il y en a moins fait aussi.
Les covers de comment de The Magic Order, ouf.
Ouais, elles sont. Bah, c'est. Oui, c'est la cover de l'album en VF, du coup, chez Panini. Comme Magic Order, c'est déjà plus ancien en VO. Du coup, peut-être qu'il n'a pas été considéré pour ça. Mais ouais, celle de Magic Order, elles sont sympas, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. T'as dit non, Erwan, c'est ça?
Bah, c'est son projet en plus, c'est sa série à lui, ça.
Oui!
Avec Mark
Oui,
Millar,
donc il
ouais.
l'a peaufiné. Quand tu regardes
Oui.
ce qu'il a fait sur Spider-Man avec des Mary Jane qui ont un visage super bizarre,
Ouais,
bah
c'est vrai. Là.
on se donne pas à fond quand c'est pas son truc en fait. Il fait sa cover et je sais pas.
Oui, il fait ça parce qu'il faut le faire et il est payé pour le faire. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que Bah, du coup, quand on a discuté pour le mettre dans la catégorie, j'ai demandé, mais il a fait quoi cette année comme cover? Parce que j'avais pas à souvenir, du coup, de trucs de lui. Donc ouais, peut-être que. Voilà. Mais en tout cas, oui. Et puis peut-être la prime à des variantes cover artistes, du coup.
Oui.
Où on n'a pas tous ces logos dégueulasses, tous les titres qui viennent gâcher les trucs. Chez DC, ils sont les spécialistes en ce moment, hein. Toutes les grosses phrases en jaune ou en rouge au milieu de la cover qui te bouffent la moitié du dessin. C'est vrai que quand on parle de variant de cover artiste où il y a le titre qui est très discret, on a vraiment presque un tableau quoi, sous les yeux. Ça imprime peut-être plus dans la rétine. Si on continue, on va passer aux deux catégories un peu reines, hein, le meilleur single one shot ou graphic novel, et puis le meilleur artiste du coup de cette année. Je les ai gardés pour la fin, parce que c'est les deux plus belles catégories, mais c'est pas, enfin à mes yeux, mais c'est pas pour rien non plus, parce que là pour le coup, vous les voyez pas venir ceux-là. Meilleur single one shot ou graphic novel. Alors ça, j'ai pas la liste, mais deux têtes. Je sais qu'il y avait November, le volume 1 de Chartier et Fraction, il y avait PTSD de Guillaume Saint-Genin, il y avait Teen Titans Raven de Piccolo et Camille Garcia, c'est ça, Erwan?
Ah, oui, c'est ça.
Et Bad Weekend de Brubaker et Phillips. PTSD.
Oh.
Oui,
Excellent.
PTSD avec 49%.
Waouh.
Voilà. Donc je pense que
Excellent.
tout est dit, on a bien fait de le mettre dans la catégorie du coup. Et en même temps, quand on parle de petites claques sur un one shot cette année, bah, j'en voyais pas d'autres. Si
Yes,
on réfléchit un peu, qu'on regarde un peu l'année en arrière, moi je voyais,
oui.
enfin, je ne voyais rien d'autre à mettre dans cette. Même pour nommer des choses, j'ai mis le Teen Titans Raven avec. Il y a d'autres personnes qui l'ont mis et c'est pour ça qu'il se trouve là. Mais je voyais rien d'autre.
Non, moi
Clairement.
non plus.
Enfin, je sais pas, toi, Erwan, ça va être d'autres choses qui t'étaient ressorties en one shot comme ça,
En one shot? Non.
ou
Non, non, bah,
même en
c'est clairement
single.
celui-là. Hein. Non, non, c'est celui-là.
Enfin, ouais, du coup, bah, très content, du coup, à titre perso, qu'il ait pu figurer dans une catégorie au milieu de d'autres titres américains, etc. Et en plus, qu'il soit suivi par le public et qu'au niveau des votes, bah, on se trouve avec presque 50% des voix pour ce titre-là, Guillaume Saint-Gelin chez Ankama. Bah, super, quoi.
Respect.
Là, moi, pour le coup,
Et
je
il est
suis.
publié aux États-Unis en plus maintenant, donc.
Ah ouais?
Ah oui, il y a une édition américaine maintenant qui a été
Ah ouais?
depuis.
Ah
Soit
c'est.
c'est pour 2020, soit c'était en fin d'année, mais oui, il
D'accord.
y a
Ah
une
bah
édition américaine.
j'étais pas du tout au courant, tu vois. J'étais pas.
Avec une cover qui est magnifique en plus, donc
J'étais
voilà.
pas du tout au courant de ce truc-là. Voilà. November et Teen Titans Raven sont dans un mouchoir de poche. Ça se joue 2-3 voix près pour la deuxième et troisième place. Teen Titans Raven qui était très sympa d'ailleurs. J'attends le Beast Boy avec plutôt une grande hâte. C'est pour cette année ou pas?
Bah Piccolo, il dit pas trop d'infos là-dessus, mais a priori oui, fin d'année peut-être.
Ça serait pas mal parce que ouais, le premier étant tellement sympa que ouais, j'ai bien accroché. Bah, c'était ma porte d'entrée d'ailleurs au titre Young un peu de DC. Donc
Oui.
voilà. Et on va terminer par bah, le meilleur artiste. J'ai pas là du coup pour le coup je n'ai pas la liste donc si quelqu'un là faites-vous plaisir.
Je l'ai.
Alors vas-y.
Ouais, vas-y.
On a Ryan Stegman, George Jimenez, Margot Checchetto, Andrea Sorrentino, Guillaume Saint-Gelin, Michael Hanin, Pepe Larraz, Mina Sundberg et Thomas Chiorello ou
Du
Chiomello.
Thomas Durello. C'était du XO Manowar, je crois, mais de tête. Bon, on a pas mal de jolis noms là encore.
Ah ouais, Yon.
Ouais.
Ouais, y a du beau monde et enfin là, franchement, je.
C'est Ryan Stegman.
Non.
Quoi?
Je t'attends. Alors là, pour le coup, cette catégorie, je sais qu'il y en a un qui va crier positivement, il y en a un qui va s'insurger. Et moi, je
C'est quoi
suis. Et moi, je suis. Bah, je suis un peu sûr. Enfin, je l'attendais pas. Franchement, personne n'aurait pu voir venir celui-là.
Ah bon?
Jiménez?
Non.
Ah,
Marco
ouf.
Checchetto, évidemment, sur Vardeville.
Eh non. Guillaume
Rani,
Saint-Gelin.
tu.
Guillaume Saint-Gelin.
Non.
Mais non.
Mais pas si.
Mais non.
Guillaume Saint-Gelin. Waouh.
Les votes, c'est pas possible.
Mais non, mais c'est pas possible.
Et bah si, Guillaume Saint-Gelin a gagné. Et moi, enfin, personnellement, j'adore son style. Je suis très content qu'il ait gagné.
Ah non, mais j'adore, mais il gagne. Enfin, le mec gagne quand même face à des gros noms, quoi.
Du coup, peut-être qu'on aurait dû le mettre en meilleur scénariste aussi pour son PTSD et peut-être qu'il l'aurait pris. Hein.
La vache!
Voilà, je suis voilà PTSD et Mutafukaz Globaloka.
J'aille lire ça, du coup.
Comment?
Faut que j'aille lire ça, du coup.
Ah, PTSD,
Enfin,
ouais.
plus que.
Ouais.
Ouais,
Je connais. PTSD, non.
non, c'est vraiment. Bah, moi, c'est ma claque de l'année en termes de lecture. Enfin, j'en ai eu quelques-unes, mais celle-là, ouais, clairement, ça fait partie de ce que j'ai lu de tout meilleur cette année. Et du coup, je faisais un petit point sur les votes un peu tous les jours pour mettre à jour un petit peu les scores et pas me laisser dépasser et tout. Et ouais. Très rapidement, il est au coude à coude avec Sorrentino et Stegman, qui finissent pas loin derrière. Au coude à coude, mais toujours devant. Et tout comme pour une autre catégorie dont on parlait tout à l'heure, en fait, il était toujours dans les choix des gens. C'était des
Ah ouais.
catégories où les gens ont beaucoup voté, 3, 4 noms, parfois plus, mais peu importe qui était avec lui, il y avait toujours Guillaume Saint-Gelin dans les 3 ou 4 noms qui étaient cochés. Et du coup, bah, ça fait qu'au final, bah ouais, il est mentionné par tout le monde, donc il gagne la catégorie. Pas
Eh
de
bien.
beaucoup, hein, on est sur un 19,7 points. Andrea Sorrentino, il a 18,2 et puis Stegman a 16,6. Donc ça s'est joué très serré. Puis après, on en a encore à 15 derrière. Enfin voilà, c'était une catégorie très 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 relevée. Mais voilà, le fait d'être présent dans le choix de tout le monde et d'avoir vraiment marqué les esprits avec ce one shot là qui était hyper choc, enfin une pépite quoi. Bah du coup, ça fait qu'il l'emporte. Et moi, j'aime beaucoup son style. Hein. Enfin vraiment. Je trouve que ce mec-là, il a une manière de composer ses pages, de faire ses cases. Même l'utilisation des couleurs, son trait un peu à la fois rond, mais pour dire des choses hyper graves. Enfin, moi, j'ai un respect infini pour cet artiste. Et du coup, je ne pensais pas déjà qu'il serait proposé. J'avoue, je l'ai mis, hein, moi, dans la liste, je l'ai proposé. Mais il fallait d'autres personnes pour qu'il puisse figurer. Donc, on était plusieurs à le proposer. Et du coup, bah, les gens ont suivi dans les votes derrière. Et c'est. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai terminé par ces deux catégories, parce que du coup, on termine avec les deux catégories dont il a été nommé, bah, c'est lui qui les remporte, et c'est la surprise de l'année, et pour moi, la belle surprise. Voilà.
Totalement.
Comme quoi les œuvres pensées en français, etc., doivent figurer dans les catégories VO et ont tout à fait leur place et peuvent même rivaliser avec des titres et des grands noms même de l'industrie américaine. C'est cool, quoi. C'est cool.
Oui, non, évidemment, évidemment.
Je suis très 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 content de ce choix-là, un petit peu ambitieux, et d'avoir eu du coup cette année des votes complètement surprenants, une vraie nouvelle vague dans toutes les catégories. Tout a été un peu balayé. Les anciens qui trustaient les premières places se sont fait un peu balayer par des petits nouveaux et un petit côté fraîcheur dont on a bien besoin dans ce milieu-là. Donc c'est cool, c'est cool. Donc bah allez lire PTSD, allez lire, jeter un œil à Mutafukaz Lobaloka, du coup, si vous voulez voir un petit peu le talent du monsieur. Et puis voilà. Vous avez des attentes pour 2020?
Pas spécialement.
Pas,
Pas
ouais.
spécialement.
Juste d'être surpris.
C'est ça.
Ouais, voilà.
Deux, trois bonnes surprises, du coup, guetter un peu ce qui va se passer, bah forcément, du côté 619, du côté des petits éditeurs. Comme je disais avant de commencer l'émission avec Erwan, j'ai plus envie en ce moment de lire des vieilles choses que de lire les nouveautés qu'on nous propose, donc c'est peut-être signe que ouais, ce qu'on nous propose en ce moment, à part du
J'avoue
coup.
le tort de Donny Cates.
Ah, le tort de Donny Cates, c'est un des super démarrages de 2020, de début 2020, et je pense qu'on en parlera quand on fera le bilan dans un an.
Bah ça. Est-ce qu'il va plutôt adapter la formule run court type Gardien ou une run qui dure un petit peu plus type Venom? J'en sais rien, mais moi c'est mon gros truc. Après, évidemment Jonathan Hickman, parce que bon, bah Jonathan Hickman. De toute façon, Jonathan Hickman sortirait une série où c'est vide, j'irais la lire quand même. Donc
Oui, bah après voilà, il y a des noms comme ça qu'on suit aveuglément, hein. Il y a quelques articles. Bah, moi, un Chips Darsky qui sort un truc, bah ouais, pareil quoi. Je vais voir. Parce que c'est lui. Clément, c'est Jeff Lemire. Et moi aussi, hein, je guette toujours quand je vois son nom, je regarde toujours. Mais maintenant, depuis cette année, je regarde toujours, mais je me pose quand même la question. Là où je me la posais peut-être pas avant.
Ah ouais, j'ai beau adorer Jeff Lemire, je ne lis pas tout quand même. Hein. Il y a des choses quand même
Bah, puis de toute
je
façon, il fait
guette.
tellement de trucs maintenant.
Bah c'est ça, comme tu dis, à la mort, il fait énormément de trucs.
Ouais. Et
Non,
puis
je guette.
voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer? Que le run de Titan Force se passe bien sur Batman, il a l'air de bien démarrer.
Oui.
Voilà, j'aimerais bien que ça continue un peu dans cette direction. Je vais profiter du bilan 2000. Ah, j'ai pas parlé de Batman de Top King dans mon bilan perso, parce que j'ai fini le run. Ce que tu disais, Anthony, n'est pas faux. Je pense que c'est un run qu'il faut lire en relié.
Ouais, c'est sûr.
J'ai lu tout l'arc City of Bane d'une traite en VO en une soirée. Bah ouais, ça passe beaucoup mieux et la fin est moins dégueulasse que ce que je me. Enfin, franchement, voilà. Je m'attendais à lire un truc que j'aime pas et finalement, j'ai pas détesté. Et c'est déjà.
Au moins, c'est toujours beau parce que le type sait s'entourer,
Ouais, non,
ou
puis
du moins, on lui donne
c'était
des combats.
cohérent. C'était plutôt cohérent. La
Ok.
fin est. Le dernier épisode, on en pense ce qu'on en pense, mais c'est une conclusion qui. Ouais.
Termine ça.
C'est une conclusion qui vaut le coup, donc non, très sympa. Et puis bah, le drame, forcément, dont on reparlera forcément quand ça sortira en VF. Et là voilà, fin de cette partie VO, partie création originale pour ce bilan 2019. On verra dans un an ce qu'il en est. Le bilan 2019, c'est fini. On se retrouve en février pour la suite des podcasts de Comic Stories. Merci de nous avoir suivis dans ce long bilan de 2019 et à très vite. Et donc pour terminer, comme pour les deux autres grands chapitres de ce bilan 2019, on revient avec Boris pour le bilan VO cette fois-ci. Et on a a des choses à dire. Enfin, je sais que tu as des choses à dire sur la VO, parce que tu es un gros consommateur de VO maintenant, de plus en
Oui,
plus.
c'est l'essentiel de mes lectures, effectivement.
Donc là, je sais que tu as des choses à dire. Vas-y, est-ce que tu as peut-être un commentaire général sur l'année en VO, une espèce de ressenti?
Ben, moi, je trouve qu'on a quand même une bonne production VO globalement. Si on sait aller faire des bons choix et voilà, être un peu curieux, il y a vraiment de très bonnes lectures. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir passé une semaine sans avoir au moins 4-5 singles à lire et souvent avec plaisir, quoi. Donc, même si dans la masse, on a des tonnes de séries Marvel ou de one-shot Marvel, par exemple, totalement insipides et sans intérêt et qui inondent le marché. On a aussi énormément de choses intéressantes, quoi. J'ai trouvé que c'était quand même une bonne année en matière de comics VO.
Ouais,
Voilà.
tu me parles d'une bonne année, beaucoup d'indés de ton côté, beaucoup de. Qu'est-ce qui a dominé
Oh, moi, c'est sûr, l'indé et puis Marvel chez les Big Two. DC m'a quand même beaucoup déçu. Moi, j'ai raté beaucoup de séries. Les seules séries régulières DC que je continue encore, c'est Flash et Justice League Dark. Et puis après, il y a quelques titres dans le Black Label, là, qui sont sortis avec du Jeff Lemire ou du Stéphane Sejic.
Ouais,
Stéphane
Stéphane, ouais.
Sejic, je vais y arriver. Voilà, mais sinon, l'univers global, tout ce qui est Superman, le Batman de King, j'ai arrêté. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et voilà, des directions un peu différentes. Le Scott Snyder, je ne suis pas du tout fan globalement en mainstream. Donc, j'ai lu le Batman Woolof, qui finalement m'a déçu quand même au final. Donc voilà, DC, pour moi, DC, c'est pas une bonne année pour DC, clairement. Hein.
Ce que tu dis est
Et
cohérent avec la catégorie No Ward des mauvais comics de cette année, hein, puisqu'on avait trois titres DC qui étaient nommés dans la catégorie, et ben les trois prennent 1, 2 et 3.
Oui, bah,
T'as
c'est un
une...
peu.
Donc je vais te redire juste les titres qui étaient les trois pour voir un petit peu si
Ouais.
tu peux. Il y en avait Heroes in Crisis, on avait Detective Comics numéro 1000 et Batman Damned. C'était les trois DC, donc ils font premier, deuxième, troisième. Je t'ai pas donné l'ordre, ton avis?
Ouais, j'hésite entre Heroes in Crisis et Batman Damned pour le premier,
Bon, ils
mais
sont
je suis
1
pas
et 2,
sûr.
effectivement.
Ouais, ah, ça se resserre. Moi, de mon ressenti, oh, j'en sais rien. Je crois que les deux m'ont pas plu. Batman Damned en deuxième, peut-être.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Heroes in
Ouais, parce
Crisis
que
est assez loin devant sur la catégorie.
j'ai vu beaucoup quand même en VF lors de sa sortie, beaucoup de lecteurs qui avaient beaucoup aimé ce titre. Alors que Heroes in Crisis, je crois pas en avoir vu beaucoup,
Ouais,
malheureusement.
Batman Damned, beaucoup ont aimé aussi à cause du graphisme.
Oui, bah, graphiquement,
En se
c'était très
disant au
beau.
pire,
Hein.
j'ai un bel
Mais
artbook.
après,
Et tout le monde le disait, l'histoire est pas terrible, mais j'ai un bel artbook.
ouais, mais enfin, moi, c'est pas l'histoire est vraiment pas terrible, effectivement.
Non, non, c'est clair, c'est clair. Donc bah voilà,
Donc,
tu parlais de la
bah.
déception d'ici, bah elle se matérialise là aussi, hein. Les trois qui font le top 3 sur les pires comics de l'année. Et pourtant, il y avait du Berserker Unbound dans la liste, hein.
Ouais,
Donc.
effectivement. Je l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Effectivement, ça a l'air très mauvais. Ou puisqu'on est dans le Lemire ou du Inferior 5, peut-être, non?
Oui, bon, il n'était pas dans la liste, mais on aurait
Je
pu,
sais
hein.
pas. Moi, je l'ai mis dans mes flops parce que j'y suis allé parce qu'il y a marqué Jeff Lemire. Et le premier m'avait un peu intrigué. Je me suis dit, c'est sympa. Il installe des mystères. On comprend pas tout, mais j'aime bien des fois être un peu perdu. Alors le deuxième, ça m'a tout de suite calmé parce qu'on comprenait rien du tout et c'était assez mauvais, quoi. D'ailleurs, ça s'est réduit de 12 à 6 numéros, donc.
Bah, l'année de Jeff Lemire est en demi-teinte quand même, hein.
Ouais, bah moi je l'ai mis à la fois dans les tops et dans les flops VO. Parce que bah ce scénariste que j'aime beaucoup a fait de bonnes séries et aussi de très mauvaises séries. Donc,
D'ailleurs, je pense que Clément ne s'est toujours pas remis, hein, que ce soit Donny Cates qui lui ravit le titre de meilleur scénariste cette année. D'un cheveu, hein, mais voilà, ça veut dire aussi quelque chose.
ouais, bah sur l'ensemble de l'année, oui, non, je caisse devant Jeff Lemire quand même.
Voilà,
Parce que
donc bah
Donny
voilà.
Cates, moi je vois pas de faux pas là. À part les gardiens qui étaient un petit peu en dessous quand même, les gardiens de la galaxie.
Mais qui n'ont pas duré
Puis
trop
ça,
longtemps finalement.
voilà, ça s'est écourté. Moi j'avais bien aimé au début, puis au bout du 5-6e épisode, ça s'est un peu. Voilà, on sentait qu'il décompressait, qu'il attendait. Il savait qu'il allait s'arrêter et passer sur Thor, donc il a un peu délayé, c'était pas très palpitant. Mais à part ça, le reste, c'était que du bon, quoi. Entre
Bah c'est vrai
Venom,
que ouais.
Absolute Carnage, qui était quand même. C'était censé être un event. Alors c'était quand même un petit event, on va dire, pour du Marvel. Et c'était surtout un gros arc de Venom. C'était bon, il est bien aidé par le dessinateur Ryan Stegman quand même, qui est. Je sais pas s'il a été
Il est bien
élu
placé,
meilleur.
mais
Ouais, il n'est
il
pas
est bien
élu, bon.
placé, mais je te garde ça pour après parce que
D'accord.
vraiment c'est une grosse surprise.
Et enfin, Donny Cates, ouais, sans doute, oui, clairement. Scénariste 2020, ouais.
Et pourtant, et c'est ce que je disais au gars tout à l'heure, moi quand j'ai mis les listes en ligne sur le site, avec le vote, que j'ai ouvert le vote, j'avais pas trop de doute que Jeff Lemire allait gagner. Parce qu'il est tellement populaire en France parmi les lecteurs de VF, il est tellement implanté, et ce qui est sorti en VF de cette année de lui était tellement bon que je me
Oui,
disais,
c'est
les
vrai que...
lecteurs VO déçus seront peut-être pas assez pour faire pencher la balance pour quelqu'un qui a peut-être plus brillé cette année. Et pourtant, de très peu, bah, ça l'a fait avec Donny Cates. Donc c'est bien et c'est tout à fait mérité, je suis d'accord avec toi.
Mais Donny Cates en VF, on a surtout de l'indé. Pour l'instant, on n'a
Oui.
pas eu beaucoup de
Bah,
Marvel, puisque son
on a son
Venom...
Thanos.
Ah oui, c'est vrai qu'on a eu Thanos et tout ça, mais tout ce qui est Venom, Tsul Carnage, Venom a commencé, mais pas beaucoup avancé, je crois.
Ouais, bah il vient de
Tsul
Marvel
Carnage, c'est pas
numéro 1.
sorti. Ouais,
Numéro 1 va
donc...
sortir. Et puis bah, son Thanos était tellement énorme que peut-être il a suffi à le faire remporter la timbale, c'est possible.
Ou peut-être que pas mal de gens lisant du Marvel sont passés en VO aussi, et
Peut-être
donc
aussi. C'est
voilà.
une bonne
Hein,
explication ouais, que je n'avais pas envisagée, mais c'est vrai. C'est vrai,
parce
c'est vrai.
que voilà, si moi c'est ce que j'ai fait hein, quand ils sont passés au Fresh Start, je suis passé à la VO, et donc forcément là du Donny Cates on en a mangé et du très bon toute l'année quoi.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et on continue d'en manger en début 2020 avec Thor. Enfin voilà. Tu seras content d'apprendre que c'est l'ami Chip Zdarsky qui ferme le podium.
Voilà, j'allais en parler parce que c'était dans mes tops aussi. Il a moins de séries, il est moins exposé, mais il a fait une mini et une série régulière que j'ai plaisir à lire pour Daredevil. À chaque épisode, c'est une claque. C'est vraiment. Là, il est en
Très
train
très bon.
d'écrire un run, mais de légende, on va dire, hein, comme les précédents de Bendis, Frank Miller ou Bob Baker. On est vraiment dans cette lignée. Et sa mini Spider-Man Life Story là, qui sort justement chez Panini. Là aussi, une super histoire. On avait l'impression de relire de l'ancien Spider-Man, d'être à la maison, mais tout était nouveau puisqu'il modifie tout un tas de choses dans la continuité pour écrire son histoire. Et on sent que le gars adore Spider-Man et nous le transmet à travers ses pages. Et puis Mark Bagley a fait aussi un
Une
beau
belle
travail
prestation, ouais.
sur cette mini.
Après, c'est vrai qu'il modifie des choses dans la continuité, mais pas pour les modifier, pour dire j'ai mis ma patte, mais juste pour rendre les choses cohérentes par rapport à son concept qui est de et si Peter Parker avait vieilli au même rythme
Voilà,
que le
oui.
temps passait réellement dans notre monde. Et effectivement, il fallait corriger certaines incohérences et certains trucs, et
Et...
c'est superbement fait.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit dans les comics de super-héros, alors que ça fait 80 ans que ça existe. Mais là, voilà, ils ont eu l'idée de faire et ça a été remarquablement fait.
Et puis Rob Guillory, pas loin derrière, du coup, du côté des scénaristes. Et puis,
Ouais, bah,
je ne me fais pas.
Charman, très bonne série, effectivement. Moi, alors, dans les artistes, j'en profite, hein, dans mes tops, j'avais mis Daniel Warren Johnson.
Ouais.
Parce que là, alors, le Murder Falcon, il a dû commencer un peu fin 2018, je crois, mais bon, moi, je l'ai lu en TP quand il est sorti au milieu d'année. Et puis là, son Wonder Woman Dead Earth, le premier numéro,
Oui.
fin d'année. Là aussi, c'est un artiste vraiment que j'ai plaisir à suivre, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Parce que c'est vrai qu'il a une patte graphique, tout de suite, c'est ça qui marque d'emblée. Mais au niveau des histoires et du scénario, il a quand même des choses à dire. Voilà, c'est vraiment intéressant au niveau de ses personnages, je trouve. Des personnages qui ont toujours des valeurs positives. C'est vraiment. Moi, j'ai vraiment plaisir à lire tout ce qu'il a fait là. J'espère qu'on va le voir de plus en plus. Donc, Delcourt a bien compris hein, en
Oui. Bah
sortant
moi,
ses
ma
titres.
porte d'entrée avec lui, c'est le Wonder Woman Dead Earth. Mon premier titre de lui que j'ai lu. Donc,
Ouais, mais
effectivement,
très bon.
j'accroche au
Hein. Ouais,
stylo.
mais tu peux aller, ouais, tu pourras prendre Murder Falcon au mois d'avril,
Il
les
paraît.
yeux fermés.
Il paraît.
Extremity était très bon aussi, et puis le premier titre chez Alkilos, qui était sorti à Space Mullet, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est plus on sent bien qu'il était un peu plus jeune, mais ça se lit très bien, hein. C'est vraiment très bon. Donc, je pense à un artiste qu'on va voir de plus en plus.
Oui, sans doute, sans doute. D'autres coups de cœur sur cette année en création originale?
Mais Ice Cream Man évidemment hein, mais bon
Oui, il faut en
que
parler,
j'ai
il faut en parler.
il faut, ouais, donc moi j'en entendais beaucoup parler régulièrement, puis je m'étais pas lancé, et donc je me suis acheté les TP à la file là, et bon, moi j'adore hein, je suis accro hein. Donc c'est une série anthologique, tu l'as dit tout à l'heure, évidemment tous les épisodes peuvent pas se valoir, c'est pas possible,
Non.
mais il y a toujours dans chaque épisode un petit quelque chose qui fait l'originalité, qui fait la surprise, et puis
ce personnage de l'Ice Cream Man, toujours aussi flippant. C'est vraiment, non, c'est vraiment une excellente série. Donc là, je vais reprendre en single à partir de la semaine prochaine. Mm-hmm.
Et, Ice Cream Man, qui réussit quand même à récolter 10% des voix pour un titre pas sorti en France, très peu mis en avant, etc. Voilà, c'est loin des gagnants. Enfin, voilà, il ne fait que 6 ou 7e en termes de positionnement si on comptait la place. Mais quand même, 10% des voix pour un titre comme celui-ci qui est vraiment un peu sous le radar, c'est bien.
Ouais, c'est le début du succès. On aura, si ça sort en VF, on aura contribué.
Moi, je t'avais parlé du bon, puis rendons à César, c'est ce qui appartient à César, hein, les collègues d'en face là de chez Comic City, voilà, on parle bien, ouais, et c'est à la fois leur propos sur la série et les tiens qui m'ont donné envie de commencer cette série. Oui. Voilà, j'ai commencé il y a 4 jours, je suis à jour, voilà.
Ah oui, tu t'es d'accord, tu t'es mis à jour en 4 jours.
Ça veut dire, ça se lit super vite, ça se lit super bien, et puis comme on n'a pas d'effort à faire de continuité, parce que c'est de l'anthologie, donc on n'a pas à se rappeler ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant ou quoi, on a juste cet Ice Cream Man qui apparaît de temps en temps, on a quand même une petite trame de fond et 2-3 trucs qu'on sent se dessiner peut-être, voilà. Mais voilà, et il y a quelques numéros qui effectivement, moi, m'ont énormément plu, quoi, ce numéro en 3 couleurs...
Ouais.
Le numéro palindrome aussi, je trouve que c'est un vrai tour de force d'avoir fait ce numéro là. La chute,
ouais.
La chute libre, ouais, vraiment assez impressionnant. Et puis cet arc, ce troisième TP, moi m'a bien
plu. Ouais, c'est celui-là que j'ai préféré, ouais, parce qu'il est tough son background avec l'Ice Cream Man et son cousin, donc.
Ouais.
Et là on sent, voilà, et dans le quatrième arc il revient pas dessus, donc ça je m'attendais à ce qu'il continue là-dessus, et c'était pas une déception, il a sans doute des pistes derrière,
qui va nous le faire, et même peut-être pas dans le cinquième mais seulement dans le sixième, et que tous les trois TP on va faire avancer un peu la mythologie de fond.
Ouais, c'est possible,
une façon de faire, mais ouais, ce troisième TP est très bon, et le quatrième aussi, hein, avec le numéro mot croisé, je crois qu'il est dedans.
Oui, tout à fait,
que j'ai bien aimé aussi, et puis le dernier,
ouais,
avec le journal intime et ce twist là.
Voilà, oui, j'avais oublié ce que c'était le dernier. Effectivement, oui, cet épisode là est assez fort. Oui. Ouais, non, mais le scénariste est totalement barré, hein. Il a vraiment des idées.
Le scénariste est barré, le dessinateur est bon, en plus il est sympathique. Je vous renvoie encore une fois à l'interview que tu as fait de lui. Voilà, allez à lire, vraiment ça mérite, voilà, plus, et ce monsieur mérite d'être connu.
C'est programmé au minimum pour 24 épisodes, donc on a encore quelques épisodes de bonheur devant nous, puisque
tu vois, ce fameux sixième arc, pour peut-être parler de la mythologie.
Ouais. Possible, on verra. Enfin, si vous connaissez pas, allez-y.
Allez-y, allez découvrir, ouais, l'interview aussi. Le... Puis, voilà, ça vaut le coup.
C'est
ça
très bon. Et puis j'en avais d'autres. Deuxième nouveau coup de cœur, pardon. La relance des X-Men par Jonathan Hickman. Ouais. Alors par la double mini série, on va dire Power of Ten, House of X. Là aussi grosse claque. Hein.
Tu seras pas surpris que ça a remporté la série limitée.
Non, bah pas trop quand même. Hein, c'était vraiment exceptionnel en termes de gestion, de scénario, de découpage par épisode, de mystère distillé.
Et de volonté de tout unifier, de tout rendre cohérent et de raccrocher les wagons des derniers événements, etc. De reprendre un peu la continuité, de la rebrasser pour en faire un tout. C'est bien joué.
Ouais, ouais,
avec Moira.
On connaissait Jonathan Hickman, on l'a déjà vu à l'œuvre sur d'autres séries, on sait de quoi il est capable. Mais les X-Men étaient dans un tel marasme que.
Ils sont arrivés d'un coup au sommet.
Voilà, ouais, ça faisait bizarre de lire des daubes et puis ensuite de lire un truc aussi bon.
Même pas de lire des daubes, de ne pas lire des daubes. Enfin, on ne lisait plus d'X-Men. Enfin, moi, je ne lisais pas de titres mutants. Enfin, j'en ne lisais plus depuis très longtemps, ou alors je me le relisais des vieux trucs.
Ouais, moi j'ai continué à lire un peu, je testais à chaque fois les débuts, puis j'ai même testé les Uncanny X-Men là, de Matthew Rosenberg et compagnie, mais au bout de 3 épisodes j'ai raté, c'était vraiment mauvais, quoi. Donc et là vraiment grosse, pas surprise, mais gros coup de cœur de l'été, on va dire, un vrai plaisir.
Période creuse, pas grand chose qui sort, et là cette petite pépite qui arrive toutes les semaines,
voilà, ouais. Oh. Et puis à chaque fin d'épisode plein de questions à se poser, ce qu'il allait, bon, fallait suivre quand même, hein, c'est pas
une lecture
détente, mais un vrai plaisir, quoi, quelque chose une vraie proposition sur les X-Men,
et beau donc, graphiquement aussi,
ouais, c'est vrai que les deux scénaristes qui se partageaient le boulot étaient assez bons, et ça fait partie aussi de mes flops, j'en profite, puisque j'ai continué à mon grand malheur pour certaines séries, j'ai pas tout testé parce que j'en ai testé 4 et puis vite ça m'a un peu refroidi. À part la série X-Men que je trouve pas mal, mais pour l'instant c'est pas très clair. Alors ça a l'air d'être là aussi des épisodes bien indépendants, mais bon, j'arrive pas trop à voir où il veut aller. Mais ça se lit. Et puis la série X-Force tout court, pardon, ouais, de Benjamin Percy. Alors que Benjamin Percy, je suis pas toujours très fan. J'avais fait son Green Arrow, j'avais trouvé que c'était.
J'avais bien aimé.
Ah ouais. Moi j'avais trouvé que des fois il y a des raccourcis assez flagrants. J'avais lu 2 tomes, je crois. Mais là, sur X-Force, c'est une bonne petite série assez violente et bien écrite. Mais alors, le reste, Marauders et New Mutants. Alors, New Mutants, j'avais trouvé ça sympa la première, parce que c'était un ton un peu léger. Mais en fait, non. En fait, c'était totalement léger. Et puis, j'ai arrêté au bout de deux.
Léger au point d'être vide, peut-être ?
Ben, je sais pas trop, parce que après, c'était le 3 et le 4, je crois que c'était par. Ed Brisson, ouais. C'était encore plus léger a priori, j'ai pas, d'après ce que j'ai pu voir. Et Hickman est revenu pour le 5 qui semblait être bien meilleur, mais bon, s'il faut
attendre que ce soit son nom sur la cover pour.
Voilà. Voilà, et puis si on sait pas si l'épisode qu'on va lire va être bien ou pas bien, merci quoi. Et puis Marauders, un épisode m'a suffi. Hein.
Donc, moi j'ai pas continué, j'ai lu tous les numéros 1, je me suis fait mon avis sur les numéros 1, et puis maintenant j'attends les fameux TP, Dawn of X, volume 1, 2, qui font les trucs dans l'ordre là. Je me dis que.
Ouais, après. Ouais, après, je sais pas, toi, t'as lu
tout. Si au final, avec tous les retards, ça sera plus dans l'ordre, ça m'embête un peu.
Oui, puisque.
Sauf s'il change.
X-Men est en retard. Ouais, je sais. X-Men est en retard et Fallen Angel va s'arrêter, je crois, au bout de 6. Pour soi-disant une pause, mais bon, ça sent le.
Ça sent l'arrêt définitif quand tu vois toute la palanquée de nouvelles séries qui se lancent derrière.
Ouais, mais c'est ce que j'avais mis dans mes perspectives pour 2020. Marvel fait encore comme ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils misent sur la quantité plutôt que sur la qualité. Ça aurait été tellement mieux de faire 2 séries très bonnes qui se répondent, voilà, qu'il faut suivre un peu comme les mini-séries de l'été, hein, plutôt que de faire 6 séries dont 4 sont franchement moyennes, et puis tous les scénaristes ne sont pas... Oui, ils en ressortent là. Il y a encore plein de titres qui vont sortir. Il y a un Wolverine avec Percy aussi.
Il y a Aliens, il y a.
Alien, le câble là.
Children of the Atom. Enfin,
voilà, alors ça va être encore.
Sans doute, quoi.
Ouais, non, mais c'est. Voilà, ça c'est ce qui m'agace chez Marvel, c'est que c'est toujours la volonté d'en mettre partout, de mettre pas forcément des scénaristes qui sont à leur place. Voilà, tout le monde n'est pas Jonathan Hickman pour écrire des séries comme ça. Mm-hmm. Donc tout de suite, on sent la différence, quoi. Quand c'est un scénariste, pas forcément mauvais, mais plus basique, qui a du mal un peu. Voilà, démarrer son truc, ça marche pas, quoi. Donc,
bah oui.
Voilà, une des déceptions, après le vrai bonheur de lire Power of Ten et House of X, de retomber dans les travers un petit peu, même s'il y a quand même 2 séries qui sont pas mal, mais...
Pour t'apprendre un petit peu la suite du palmarès de la série limitée, du coup, parce que c'est House of X et Power of Ten qui a gagné, c'est Spider-Man Love Story qui est derrière,
ouais,
en deuxième, et puis Deceased, troisième, pour le podium.
Voilà, ça j'ai... Enfin si, j'avais lu le 1, hein. J'avais trouvé ça complètement bourrin, puis j'avais laissé tomber, mais bon, a priori, les avis sont plutôt bons. Je crois que tu l'as lu, toi.
Ouais, je l'ai lu. J'ai pris le hardcover, là. Superbe objet, d'ailleurs, le hardcover. Bien édité. Et ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est très, très cool.
Ouais, je vais me prendre l'ABF chez Urban.
Voilà, il se fait plaisir.
Tom Taylor, c'est pas mal, normalement, en général.
Et il mais là, nous fait plaisir.
Ouais, là, le premier épisode, j'avais pas accroché, donc comme je lis, j'ai vu énormément qu'à lire, j'avais laissé tomber. Mais je vais prendre une version urbaine, je pense, et puis m'enfiler la mini d'un bloc.
Ouais. D'autres coups de cœur ou coups de gueule ?
Ouais, alors les coups de cœur sur les éditeurs TKO et Boom. Alors TKO parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Moi, je lis leur série en format TP. Et je trouve que leurs TP sont super qualitativement au niveau du papier, au niveau des dimensions, au niveau de voilà du produit. C'est vraiment quelque chose de très bien, de très beau. Les séries globalement sont plutôt bonnes.
Deuxième vague un peu en dessous quand même.
Ouais, effectivement un peu en dessous. Bah ils avaient la première, ils avaient quand même du Arsenis, du Joshua Dysart. Et puis les 2 séries alors comment il s'appelle, Sun Che.
Ouais, j'arrive pas à me rappeler. Ouais, c'est vrai ça. Ouais,
enfin du l'éditeur quoi. Était très sympa. J'avais trouvé que c'était plutôt sympa. La deuxième vague, bon, il y a le Jeff Lemire qui était pas mal.
Le Sentient.
Moi j'ai lu Pound for Pound qui était bien. The Banks, je l'ai pas encore lu, ça va pas tarder. Et par contre là c'est dans mes flops, c'est Eve of Extinction. Alors là, j'ai rarement lu un comics aussi mauvais.
C'est rare d'entendre dire du mal de quelque chose.
C'est vrai, je suis assez positif en général, je suis un peu voilà, un peu bisounours, mais alors ça, mais c'est, j'ai trouvé ça nul, mais tellement mauvais, il y avait rien, enfin c'était, il se passait rien, c'était des clichés, enfin c'était, enfin je l'ai lu jusqu'au bout, mais je pour faire la review, mais si j'avais pas eu la review, je m'étais pas dit je vais faire tous les titres TKO en review, j'aurais arrêté, hein. Franchement c'était non. Mauvais.
Ami auditeur, bon. Cet homme met des 10 à tour de bras hein, sur des titres qu'il aime.
Pour j'ai mis 4.
Pour qu'ils disent ça et qu'ils mettent 4, ouais, vraiment, moi j'aurais peut-être mis 1.
ou une note négative peut-être même. Peut-être. Mais non, achetez, si vous voulez investir dans du TKO, découvrir, n'allez pas acheter celui-là, c'est pas la peine, c'est mauvais. Ouais, très mauvais.
J'ai pas été ultra emballé. Le Sentient m'a plu, mais pour le reste, ouais.
Non, mais il faut prendre le Sarah de Garcelis, qui est un chef-d'œuvre.
Très bien, Sarah est très bien.
Et Good Night Paradise de Joe Sadaverse aussi, c'est vraiment très très bon. Donc ça, c'est fait partie de mon. Ouais. La première partie TKO coup de cœur, c'est pas vraiment un flop, mais on n'a pas d'infos sur une publication VF, alors qu'il y a quand même matériel à faire des choses. Et je sais pas où ça bloque, est-ce que c'était KO qui veut pas, je sais pas trop, parce que j'avais plus ou moins compris que Bliss a essayé de négocier sur Good Night Paradise, puisqu'ils ont Joe Sodaizart sur Valiant notamment, et puis sur des titres caritatifs. Et la réponse que j'avais eue, c'est qu'ils essayaient d'avoir les droits, mais a priori, ça vient pas. Donc, est-ce que c'est TKO qui bloque pour une raison X ou Y, ou qui veut que tous ces titres soient chez le même éditeur, ce qui est possible aussi.
Peut-être.
Donc ça, je sais pas. Moi, j'ai hâte quand même de voir.
Exigences de format.
Ouais, je sais pas. Mais moi, j'ai hâte quand même de voir débarquer ces titres en VF. Quand même. Mm-hmm. Ça, pour les lecteurs VF, ça serait quand même une bonne chose. Et puis Boom Studio, parce que les dernières mini-séries lancées là, c'est quand même du tout bon. Que ça soit Once and Future, Something is Killing the Children, Folklords, je sais plus, ouais. C'est tout, je crois. Enfin, il y a 3-4 séries
joli trio, hein.
qui sont parmi celles que je lis en premier quand je reçois ma fournée. Donc voilà.
Heartbeat était sympa ce premier numéro, mais il attendra le TP pour moi, pas au niveau des trois autres.
Voilà, donc quelques bonnes séries chez cet éditeur. Donc ça fait partie de mes coups de cœur. Et puis j'avais mis Jeff Lemire comme artiste, puisque il a fait quand même Question, il y a encore du Black Hammer, Gaiden Falls. Et puis en VF, on a eu la fin de Royal City qui était vraiment
magnifique,
exceptionnel. Ouais. Voilà. Malgré ces titres moisis, Inferior 5, et puis moi, celui avec le Joker, le numéro 2 était mieux, mais le premier, j'avais un peu pas trop accroché. Enfin, il a quelques titres en dessous, et puis il en a fait tellement, faut dire aussi. Et puis toi, tu avais Family Tree qui était dans ton top 5.
Family Tree, vraiment haut dans mon cœur. Hein. Vraiment là, fou.
J'ai pas encore lu le numéro 2, donc je peux pas te dire si t'as eu tort ou pas, parce que je viens juste de le recevoir. Mais il reste, même s'il est peut-être trop productif, il conserve quand même quelques bonnes séries. C'est quand même un scénariste que j'ai plaisir à lire.
Ouais. On va parler de séries régulières.
Oui.
Parce que du coup, tu ne connais pas le palmarès, donc
je découvre.
Je sais que tu as évoqué Gaiden Falls, tu as évoqué Jeff Lemire. Jeff Lemire n'a pas encore gagné là non plus. De toute façon, Jeff Lemire n'a rien gagné cette année.
Clément est en dépression.
Ah Clément là, il est en train de. Oui, il est en train d'envisager. Oui, effectivement. Peut-être une pendaison, je ne sais pas.
Ouais.
On prendra de ses nouvelles, au cas où. Gaiden Falls, troisième hein, seulement, en création originale, série régulière. Et puis, c'est cette catégorie, et je pense qu'on n'y est pas pour rien, surtout nous deux. Elle évoque quand même assez... on a les auditeurs qu'on mérite, quoi, j'ai envie de dire. Et voir Giant Days en quatrième, Farmhand en deuxième. On a aussi des lecteurs qui nous suivent et des auditeurs qui nous suivent et qui nous suivent aussi parce que peut-être ils ont les mêmes goûts que nous et ça se retranscrit aussi dans ces deux résultats là quoi, voir Farmhand en deuxième. Voilà, et Giant Days juste un poil derrière Gaiden Falls, enfin, il en a fallu de peu pour qu'elle le sorte du podium. C'est beau quoi. Alors oui, c'est Venom qui gagne, mais qui d'autre quoi, enfin qui d'autre.
Oui, on retrouve Donny Cates, oui, c'est sûr, hein, en haut du
Le Thor de Jason se porte bien, le Thor de Jason Aaron pour sa fin se porte très bien aussi dans les votes. Enfin, ça a été très 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 serré. Il y a 5% hein, qui sépare le premier du sixième.
Ah oui, effectivement, oui. Effectivement. Ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de bonnes séries quand même. Hein. quand même une année 2019 assez riche. Mais c'est vrai que Giant Days, oui, en 4, ça a peut-être plus de succès sur le site que chez Akileos.
Ça a peut-être plus de succès chez les lecteurs de Comic Stories que dans le lectorat global. Et moi, on y est en doigt pour rien. Et cette semaine à thème là, qui commence chez nous, du coup, là, n'est pas pour rien non plus.
Ouais, non, mais très bien, très ravi. C'est cool. Non, mais que des bonnes séries. Guiding Fall, c'est vraiment excellent aussi.
Ça me
Après, ça paraît. Ouais, moi, je suis en VF. Le problème en VF, c'est que c'est un peu long à sortir quand même. Hein. Ils en sont d'ailleurs le troisième là.
Là, en VO, ça me lasse un peu. Je trouve que.
Pas assez de réponses aux mystères posés, peut-être.
Disons qu'on commence à. Je commence à arriver à un point où je fatigue un peu qu'on me rajoute des questions à chaque numéro, mais qu'on me donne pas forcément beaucoup de réponses en face. Et à un moment, je me dis, là, des questions, il commence à y en avoir un peu trop.
C'est vrai que moi, sur les deux premiers tomes, pour l'instant, donc ça doit faire 10 numéros, je pense. C'est vrai que les questions posées sont intrigantes et la forme est vraiment passionnante. Mais c'est vrai que si au bout de toi, tu dois en être à 16 ou 17, ça doit être ça.
Ouais, 19, je sais plus. Je
19 vois. Même, ouais. C'est vrai que si là, il n'y a pas encore de réponse et qu'on rajoute des questions, peut-être que la force, c'est...
Attends, je vais te dire lequel j'ai dans ma pile à lire, c'est le 20.
Ah oui, déjà, ok. Ouais. Voilà. Ah oui, donc en VF, on est en retard, ouais, effectivement.
Après, c'est bien, hein, c'est bien. Peut-être aussi le rythme single qui me convient moins sur cette série, parce que c'est pas forcément le truc que je lis en premier, et du coup, peut-être que je traîne un peu entre deux numéros, et peut-être je devrais le lire d'un coup en TP, et j'apprécierais plus.
Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il y a des séries comme ça où si on lit un single tous les mois, on sait plus trop ce qui s'est passé.
Pourtant, il respecte bien la construction, ouais. Le cliffhanger de fin, machin, tout ça. Enfin voilà, il écrit pour le single aussi. Mais peut-être que moi, en termes de rythme, j'ai besoin d'un peu plus. Et peut-être qu'un TP à la fois, ça me nourrirait plus. Et voilà, faut voir.
Ouais, c'est possible. C'est possible.
En tout cas, Venom, très bonne année.
Ah, Venom, excellente série, ouais. Donny Cates a réussi à faire une série sur un personnage pas forcément que. Totalement apprécié des lecteurs, on va dire, un peu particulier. Et il a su à la fois mélanger le côté un peu, entre guillemets, super-héroïque, en redéfinissant le personnage et son origine, et en apportant une partie familiale qui est très touchante avec, avec Dylan. Là-dessus, il est très fort. Moi, c'est ces épisodes-là que j'ai préférés. Je crois que c'était le 6 et 7, ou je ne sais plus, enfin par là. J'ai trouvé que ces épisodes étaient remarquablement écrits.
Il gère bien cette situation. Avec lui durant Absolute Carnage.
Aussi, ouais. Ça, il est très fort là-dessus. Hein.
J'ai hâte de lire le one-shot qui arrive là sur The Good Son. Qu'est-ce qui vient de sortir cette semaine, je crois, c'est The Good Son. Web of Venom, The Good Son.
C'est vrai, j'ai raté. Ah bah, alors j'ai raté parce que les Web of Venom, j'ai lu les premiers, ça m'a déplu. Je trouvais que c'était pas nécessaire.
Peut-être celui qui sort là s'appelle The Good Son, donc moi j'ai vu le titre, je me suis dit, oh je veux, parce que ça parle d'Ilan. Je sais pas plus, mais je veux. Voilà.
Je vais jeter un œil, alors j'ai raté ça. Bon, ça va pas. Venom, et c'était en deuxième, tu avais dit qui? J'ai déjà oublié.
Farmhand.
Ah oui, Farmhand, bah oui. Oui, c'est très, très bon, et pas de baisse de niveau, toujours, voire même mieux là sur le troisième arc encore.
Ouais, non, ça monte, c'est très... Enfin, voilà, le Rob Guillory...
Puis le gars fait ça nickel, quoi. Il fait ses 5 épisodes, il a sa pause, il revient, enfin, s'il n'y a pas de retard, il a tout prévu, ça c'est appréciable aussi, quoi.
Ouais.
Donc, effectivement, ouais. Non, bah, que des bonnes séries, hein. Et puis ça fait plaisir.
Que ouais, de bonnes choses, ouais. Il nous reste à parler ensemble des one-shots, des singles, graphic novels, one-shots. Est-ce qu'il y a comme ça des choses qui t'avaient marqué? Le November, peut-être?
Oui, le November, ça serait que j'avais pas trouvé trop d'idées, mais November, le premier numéro, enfin le premier volume, on va dire, de Matt Fraction et Elsa Chartier. Très bonne surprise aussi. Mm-hmm. Encore un titre pas facile d'accès où il faut pas s'endormir au milieu, quoi. Hein. Si on a un petit coup de barre, on comprend plus. Même si on est en forme, on comprend pas tout, c'est fait pour. C'est le découpage qu'il veut, et puis comme c'est prévu pour être en 3 volumes, on aura sans doute des réponses après. Mais là aussi, une vraie proposition originale avec une dessinatrice française voilà, qu'on a envie d'encourager, hein, que j'avais découvert sur Infinite
Loop. Ultra doué, ultra sympathique. Hein,
ouais. Voilà, ouais, donc non, voilà, ouais, moi j'aurais voté pour ça parce que j'en avais qu'un, je crois. Non, j'avais le Brubaker Phillips.
Le Bad Weekend, ouais.
Ouais, alors ça, Bad Weekend, moi, en fait, c'est un regroupement de deux singles. Il avait fait un mini arc en deux, de Criminal, et qui avait super bien marché. Donc ils se sont dit, tiens, on va le sortir en graphic novel, mais au départ c'était pas du tout prévu pour ça, c'était juste un arc de la série, ça m'a surpris un peu, je me suis dit, ils surfent un peu sur le format, puisqu'avant ils avaient sorti My Heroes
Always Be Junkies,
merci qui était là par contre prévu au départ en graphique novel. Donc bah, c'est Delcourt va le sortir aussi, le Bad Weekend, en avril, je crois. Donc, mais c'est au départ, c'est un petit arc de criminel. Donc plutôt novembre, moi. Ouais. J'attends avec impatience le résultat. Vas-y, je t'écoute.
Bah, le résultat, les gars l'ont déjà entendu, les auditeurs l'ont déjà entendu, et bah, c'est notre gros choc de cette année, hein, c'est PTSD qui l'emporte, et de très très
Ah oui,
très très loin,
effectivement.
50% quasiment des votes, enfin, c'est un raz-de-marée pour ce titre. Clément en a parlé dans le dernier épisode du podcast, en nous disant tout le bien qu'il avait pensé de ce graphic novel, Guillaume Saint-Gelin. Et voilà, et moi je suis déjà super content qu'il ait pu apparaître dans une catégorie et qu'on ait remanié un peu les catégories pour un titre comme ça, qui est écrit en français, qui est pensé en français, mais qui reste du graphic novel et qui méritait sa place avec le November, avec le Teen Titans Raven, avec Bad Weekend, avec d'autres aussi. C'est pas parce qu'il est français qu'on doit forcément le mettre dans la catégorie VF quand c'est la langue de création. Et du coup, ben, j'étais vachement content d'avoir cette possibilité d'ouverture dans nos catégories et de pouvoir le placer. Et plus je voyais les votes, enfin, dès le départ, il était en tête, il a jamais lâché la tête des votes et enfin, voilà, presque 49% des votes pour être précis. November qui est deuxième, il en fait pas 21. Et voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est la belle surprise, la belle, belle surprise de cette année de voir un titre comme ça porté aussi haut. Peut-être parce qu'il est français et que du coup, il a été lu par plus de nos lecteurs.
Je, c'est possible.
Je ne sais pas, mais en tout cas, quiconque l'a lu a trouvé que c'était un chef-d'œuvre et du coup,
oui.
Voilà, c'est mérité. C'est très, très, très mérité.
C'est un livre à lire et qui est vraiment bien réalisé et effectivement
ce qui est encore plus touchant et encore plus énorme et incroyable, c'est que c'est Guillaume Saint-Gelin qui remporte le meilleur artiste. Et ça, tu t'y attendais pas?
Ah non, pas du tout, non.
Un artiste est incroyable, enfin, vraiment, il fait de sublimes dessins, que ce soit sur PTSD ou sur Mutafukaz Lobaloka, c'est un artiste de feu que j'aime beaucoup. Et qui a pu du coup, bah voilà, qui a été aussi mis dans cette catégorie au milieu d'Andrea Sorrentino, de Marco Cecchetto, Michael Ranin, Ryan Stegman, Yoré Jiménez, et qui finit dans nos votes en tête, voilà, et qui emporte cette catégorie devant Andrea Sorrentino et Ryan Stegman. Moi je trouve ça assez, assez fort. Le doublé PTSD Guillaume Saint-Gelin meilleur artiste cette année, je trouve que c'est une grosse surprise. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais après tout, c'est les votes qui ont voulu ça. Mais en tout cas, c'est un message, ma foi, assez sympa qui est envoyé.
Ouais, ouais, effectivement, c'est surprenant, ouais. Tout à fait. Mais c'est une belle œuvre, donc effectivement, à pousser. Et aussi bien graphiquement, effectivement, que scénaristiquement, ça mérite, hein. Il y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué parce que d'habitude on met des c'est plutôt des artistes anglo-saxons on va dire hein, qui sont
dans Andrea Sorrentino hein, le tandem ouais. Lemire Sorrentino voilà c'est fini ça c'est la chute là, du tandem là qui trustait la première place depuis plusieurs éditions qui avait été rarement perturbé peut-être de manière exceptionnelle mais voilà Lemire Sorrentino ça a toujours été le duo qui gagnait tous les awards et là bah non Donny Cates Guillaume Saint-Gelin joli
mais c'est vrai que c'est une belle surprise effectivement et je crois qu'on l'a presque tous lu peut-être pas Anthony je sais pas s'il l'a lu
je ne sais pas
mais Erwan enfin tous les quatre autres on l'a lu et voilà on est unanime c'est vraiment très très bon c'est à découvrir si vous l'avez pas encore fait effectivement
mais et visiblement on n'est pas les seuls à le penser
bah ben oui clairement hein. C'est vrai que
PTSD qui va ressortir avec une couverture alternative pour les 15 ans d'Ankama là dans l'année donc ça peut être l'occasion pour ceux qui l'ont pas lu de se le choper
ouais effectivement
et puis Yoré Jiménez du coup c'est lui hein, le petit quatrième là, au pied du podium pas très loin derrière Ryan Stegman l'ultra sympathique Yoré Jiménez qui finit quatrième c'est cool bel artiste qui est en train de vraiment, vraiment, cette année, fait une très belle année, et qui va arriver sur Batman, là, avec James Tynion IV, hein. Dans quelques ouais. numéros, c'est mérité, et une immense carrière devant lui.
Ouais, je pense qu'on va en entendre aussi, là,
beaucoup
parler.
Il restera pas quatrième ouais. longtemps dans les votes, je pense, celui-ci. À moins que Guillaume Saint-Gelin ne sorte d'autres choses.
Oui, c'est possible. Ah bon, on ira voir, enfin, moi je surveillerai. C'est vrai que avant de lire PTSD, je connaissais le nom, je sais plus sur quoi je l'avais vu. Parce que effectivement, maintenant j'irai voir quand j'entendrai un projet de
avec
sa part sortir,
oui.
j'irai voir en direct. Hein.
Forcément, forcément.
C'est évident.
Et puis l'année des covers, on a
aussi,
beaucoup,
oui,
on a
nouvelle,
beaucoup parlé covers cette année. Même dans nos discussions à nous, hein, souvent on parlait de variantes de cover, on parlait de, oh purée, les Francesco Mattina, les trucs, regarde-moi ces chefs-d'œuvre qu'ils nous font là. Enfin vraiment, là il y a Grosse mise en avant de magnifiques variants de cover, de plus en plus accessibles aussi à la vente et aux tarifs quasi normaux, en tout cas chez les boutiques que nous on fréquente. Et vraiment, enfin, j'ai des souvenirs de couverture. Là, cette année, c'était le festival, quoi.
C'est vrai que toi, tu es un amoureux des variantes.
Des variantes ou des classiques, hein, parce que sur Daredevil, je prends toujours la
Ouais.
classique parce que
Ah oui,
les
c'est vrai.
covers de Totino Tedesco, c'est des petits tableaux, quoi, à chaque fois.
Ouais, elles sont belles aussi, ouais, effectivement. Alors, qui est le vainqueur?
Alex Ross, ouais, tu le savais, c'est vrai que toi tu le savais pas du coup. Alex Ross. Alex Ross qui l'emporte. Sans grande surprise. Mais tout de même talonné par Francesco Mattina.
Et Francesco Mattina, il a fait quoi comme
Francesco
cover? Parce que
Mattina
moi
chez
je.
DC, il a fait beaucoup de couvertures sur Batman. Il a fait des variants de cover de
D'accord.
Green Lantern aussi de Morrison qui sont assez ébouriffantes. C'est les couvertures zombies de DC, c'est lui. Les
D'accord, ah
couvertures
oui,
avec le
ça je vois ce que
portrait,
c'est.
là,
Ouais.
les têtes en gros plan là, des héros DC complètement modifiés en zombies, c'est lui. Et puis bah, Yasmine Poutry, ma petite chouchoute des variants de cover. Enfin, moi, quand elle signe une couverture, je suis quasiment dessus sur l'affaire. Qui a fait des chefs-d'œuvre sur Redwood, Outlaw et sur Nightwing notamment cette année. Bah, voilà, elle finit troisième, donc c'est très bien. Enfin, moi, c'est
Ok.
une catégorie qui m'intéresse. Peut-être tu es moins sensible, effectivement, peut-être.
Ouais, non, moi c'est rare que souvent quand je commande des variantes, c'est que j'ai raté la régulière. Et donc j'essaie de retrouver mon épisode que j'avais pas eu. Sinon j'ai mes abonnements et puis boum, ça tombe. Je suis
Oui.
pas forcément voilà. Je suis pas à la recherche de ça, on va dire. Moi, c'est plus le contenu qui compte. Mais
Après, les classiques sont quand même globalement assez belles
oh,
aussi.
oui, on n'a pas de trucs crado quand même. Hein,
Non, non, non.
et puis
C'est propre.
voilà. Et Alex Ross, effectivement, sur Immortal Hulk, bon, c'est pas crado. Hein, c'est des belles covers bien impressionnantes qui vont bien avec le ton de la série, quoi.
Je dois
Voilà,
quand même
qui
saluer
sont
Marvel
horrifiques.
pour quelque chose, parce que par rapport à DC, c'est un éditeur qui fait quand même l'effort de mettre son logo assez discret dans un coin, le nom des artistes qui s'efface un peu, enfin qui laisse vraiment la place à la couverture, même sur une couverture classique. Chez DC, on a encore beaucoup de gros titres qui viennent se rajouter par-dessus, des phrases d'accroche, etc., qui viennent se rajouter par-dessus le dessin, et qui font du coup peut-être moins profiter de la couverture, alors que chez Marvel, c'est assez léger, c'est assez neutre et c'est appréciable.
Avec des bulles à l'ancienne, c'est ça, non? Avec
Non, non,
le.
non, je sais pas si t'as eu le numéro 86 de Batman entre les mains, peut-être pas encore.
si, en bas, il y a les écritures,
Ben
mais
voilà,
je
c'est ça,
ne
voilà,
l'ai
c'est
pas
ce genre
lu
de
encore.
truc, moi, qui. Alors oui, c'est de l'accroche, hein, ça te donne envie, etc., mais du coup, il y a le dessin derrière et bah, ça en occulte une bonne partie.
Ouais, sur celle de Suicide Squad aussi, la première, il y avait alors le clown qui parlait, il y avait une bulle. Enfin, c'était. Voilà, ça faisait.
Ben ça, à la rigueur, je pense que c'était prévu par l'artiste.
Ouais, c'est possible, ouais. Mais ça se fait plus trop quand même. Ça se faisait à une époque
Oui.
ancienne, on va dire. Mais ça avait relativement disparu. Là, ils l'ont remis pour celle-ci. Mais ouais, non, c'est vrai que les covers, ouais, c'est vrai que chez Marvel quand même, ils font cet effort, c'est bien.
Et tes attentes en VO pour terminer?
Mes attentes en VO. Alors ça, j'ai pas préparé, mais j'avais mon. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais surtout parlé de Marvel et de DC. J'étais pas très optimiste moi pour ces deux.
Ouais.
Alors Marvel arrive à avoir des séries régulières et voilà avec des scénaristes solides. On a parlé de Donny Cates, de Chibzarsky, Ali Wing. On va voir ce qu'il va donner sur les Gardiens. Voilà, il y a des séries régulières et des artistes qui permettent d'avoir de la qualité. Après moi, ce que j'aime pas chez Marvel, c'est
La
les
multiplication des pains.
Voilà, voilà, c'est les trucs. Ils sortent une série, il y a 10 000 trucs qui sortent autour. Là, j'ai regardé les sollicitations pour le mois d'avril avec l'Event Empire. Hein. Des titres estampillés Empire, il y en avait, mais une ribambelle avant que j'arrive à trouver un titre qui n'était pas estampillé Empire, et j'ai passé je sais pas combien de temps. Donc, ça, c'est fatigant. Puis surtout que. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a des gens qui achètent par automatisme un peu
Oui.
et leur argent irait peut-être mieux à des séries un peu plus qualitatives et qui mériteraient qu'on jette plus un œil dessus, quoi. Moi, c'est plutôt du côté de l'Inde et que j'espère
Des attentes.
avoir voilà, des attentes avec
Normal.
de bonnes séries, des suites de séries qu'on a déjà. Chez DC, j'ai peu d'attentes. Franchement, là, j'ai pris le Batman de Titan Four parce que j'aime bien le scénariste. Pour l'instant, je ne suis pas totalement convaincu. Après, il a fait que j'ai lu qu'un épisode, on verra le deuxième, et puis par la suite, au fur et à mesure. Mais bon, pour l'instant, ça part trop un peu dans tous les sens, quoi. Puis les scénaristes en place me passionnent pas trop, entre Bendis, Snyder. C'est pas des artistes que j'apprécie spécialement en mainstream, donc je pense que DC va pas m'apporter beaucoup de bonheur cette année. Ah, peut-être des titres Black Label, comme ils font là, il y a
Peut-être.
quand même de la qualité. Mais c'est non, c'est vraiment sur le sur l'indé et surtout peut-être pas encore une augmentation de tarif comme puisqu'on y a droit en VF, espérons qu'en VO ça on est déjà à 4$.
C'est déjà pas mal, hein.
Et il y a de plus en plus quand même d'épisodes à 5, 6$ parce qu'ils nous rajoutent 5 pages ou parce qu'ils ont agrandi le format de 3 cm de chaque côté.
Ou parce qu'il y a une cover un peu cartonnée.
Voilà, ouais. Donc espérons qu'on voilà, qu'on passe pas à 5$ ou 4,50$ pendant l'année pour que ça devienne le tarif habituel. Que
Très
tout le
bien.
monde prenne pas modèle sur Panini.
Non, ça, si possible. Si possible. Et ben, on arrive
Voilà.
au terme de ton bilan et du coup
Ouais.
du bilan global de l'équipe. Donc on va clore cette année 2019 définitivement cette fois-ci, puis on va se tourner vers 2020 et puis voir un petit peu ce que donneront les prochaines lectures avec les prochains podcasts.
Tout à fait, en espérant qu'on ait aussi, au moins aussi bonne année en termes de lecture.
Ce serait cool, ouais, ce serait cool.